Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Au bout du foot. Beaucoup de déceptions durant la semaine pour nos clubs français, mais j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés pour cette émission. Comment ça va, Lucas?
Niveau footballistique, c'était une sale semaine. Hein. On a connu beaucoup mieux, mais bon, on va faire aller. C'est le début de saison encore, on a le temps de rebondir.
J'espère. En tout cas, pour l'instant, c'est un peu la cata du côté club français. En tout cas, bon, la cata, c'est un grand mot, mais de cette semaine, ça s'est pas très bien passé. Mais on espère que ça ira mieux dans les prochaines semaines. Amadou, un grand revenant et la grande rentrée pour Amadou. Comment ça va, Amadou?
Bah, ça va tout doux, fraîchement. Hein. Bon, on se réchauffe avec le foot, hein, comme on peut.
ça te réchauffe? Toi, tout ce que tu vois en ce moment, ça te réchauffe?
Pas tout, mais un peu quand même. Ah ouais. Il y a Liverpool qui réchauffe un peu.
Ah oui, à Anfield, il fait très haute de ce côté, ouais, c'est vrai. Comment ça va, Maxence?
Ça va très bien, moi je suis pas concerné par les semaines, mais les week-ends se passent bien, donc comment mieux démarrer la semaine qu'avec une victoire de l'OM dans un gros match au Vélodrome? C'est assez rare pour être souligné, ouais. Donc voilà, ça démarre bien.
Bon, même si t'es quand même concerné la semaine, quand même en tant que chroniqueur, il te faut que... voilà.
On va dire que le cœur n'y est pas, mais... Mais les yeux, ils sont bien.
Ok, mais le cœur n'y est pas même un peu pour nos clubs français quand même? Non, du tout.
Pas forcément.
On avait eu un vieux débat là-dessus, hein, où il y en a qui disaient, bah non, nous, même si d'autres clubs français jouent en Europe, nous, on les supporte pas, on espère qu'ils perdent, comme ça se fait dans...
À part
dans,
le PSG, sinon, Lille, Monaco, j'ai pas forcément d'animosité particulière. Donc Lille, par exemple, leur parcours, ce qu'ils sont en train de faire en Ligue des Champions, je trouve ça top. Après... Après, j'ai pas forcément envie que le PSG gagne avec des champions tout de suite. Mais...
Okay, donc, tout de suite. Donc,
bientôt, un jour, c'est ça. Okay.
Comment ça va, Léo? C'est la petite rentrée pour toi aussi, hein, parce que ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu. T'as voyagé un peu partout.
Bah écoute, ça va, tranquille. Moi, ma semaine s'est bien passée, mon week-end aussi, donc que demander de plus, hein.
Footballistiquement parlant, bien évidemment, ça s'est bien passé pour toi avec...
Il y a un club qui prouve encore une fois qu'il est meilleur des deux Olympiques, hein, mais...
Le classement dit l'inverse pour l'instant.
Ça commence à chauffer. Bon, on va commencer bien évidemment avec la Ligue 1. Le PSG qui cale face à Nantes. Au Parc des Princes, un partout. Lyon qui s'impose 4-1 face aux Aiglons. Les Aiglons, ça fait lourd. Hein. 8 buts encaissés en 2 matchs. Ça fait très lourd le bilan pour cette semaine. Lille ne réussit pas à enchaîner face à la Lanterne Rouge. Montpellier avec une fin de match très animé, hein, avec le joueur qui avait tiré sur Genesio et tout le staff technique, toutes les grosses embrouilles. On y reviendra, bien évidemment. Et avec Marseille qui se sont imposés à domicile face à Monaco après avoir concédé l'ouverture du score. Ils se sont imposés 2-1 avec notamment un but de Greenwood dans les derniers instants sur penalty. Quels sont vos faits marquants sur cette Ligue 1, Lucas?
Comme d'habitude, ça va être le PSG qui me marque. Je suis déçu qu'ils aient pas réussi à gagner. On a encore eu beaucoup d'occasions. Et en fait, ce qui m'interpelle par-dessus tout, c'est que Luis Enrique continue de dire qu'il ne comprend pas. Et je trouve ça assez grave qu'un coach prétende ne pas comprendre ce qui se passe, prétende ne pas avoir de solution, sachant que c'est lui, selon toutes les sources concordantes, qui n'a pas voulu d'un attaquant supplémentaire, qui aurait pu mettre les buts qui manquent. Donc voilà, je suis assez déçu. Sinon, j'ai bien aimé la réaction de Rennes qui commence peut-être à avoir un effet Sampaoli. Certes, ils ont gagné à 11 contre 10, mais ils ont quand même mis 5-0 à Saint-Etienne, il faut le faire. Et évidemment, le match de hier soir, la victoire de Marseille contre Monaco. À la mi-temps, 1-0 pour Monaco, j'y croyais pas forcément. Et Marseille a su renverser les choses. Ouais, bravo à eux.
Amadou.
Ouais.
Comment toi, t'as vécu cette semaine de Ligue 1, en tout cas, ce week-end de Ligue 1?
Ouais, les gars, bon, après, j'étais plus concentré sur les autres championnats, mais après, bon...
J'en connais certains qui vont être fâchés entendant ça.
Non, après, non, pas du tout. Après, bon, le PSG, je sais pas pourquoi, mais je sentais ce match bizarre. Les matchs après la Ligue des Champions, en général, Il y a toujours des, il y a toujours des, ils sont toujours bons à prendre après la Ligue des Champions, le PSG.
Oui, mais bon, c'est, ouais. c'est généralement ça arrive, ouais. mais c'est quand ils font des gros matchs quand même en Ligue ouais. des Champions, du moins en tout cas un résultat. Là, ouais. Mais là, ces dernières, en tout cas ces dernières fois, à chaque fois ils perdaient un peu en Ligue des Champions et ils ouais. revenaient en Ligue 1, ils claquaient.
Ouais, pour se venger
buts,
quoi.
Voilà. Buts, ouais. C'était un voilà. peu ça en tout cas.
Ils se vengeaient sur une petite équipe de Ligue 1 pour pour se déboire en Ligue des Champions, mais là, bah après Nantes, bon, on connaît Nantes, bon, il y a Camboiré, ancien parisien, c'est un entraîneur. Bon, quand il joue contre Paris, il sait comment s'y prendre. Donc,
Nantes qui est resté ouais. sur 5 défaites consécutives quand même. Hein. Et là, ils arrivent à tenir ce point de match nul au Parc des Princes ouais, face au Paris Saint-Germain. Ouais. C'est avec un somptueux but d'Albin, c'est ça ?
Ablin, ouais.
Ablin, oui. Ablin. Et qu'est-ce que t'en as pensé toi, Maxence ?
Non, la prestation du PSG est clairement très décevante dans la lignée de ce qu'on voit en Ligue des Champions, mais là face à un adversaire bien plus faible. Il y a des matchs qui n'étaient pas forcément meilleurs depuis le début de saison, mais qui se soldaient par des victoires parce qu'il y a un écart de niveau assez important avec les concurrents en France. Après, bon, il n'y a pas d'inquiétude pour le PSG non plus, hein, 33 points sur 39. Enfin, je parle au niveau
comptable.
Chiffre, hein, au niveau comptable, voilà. 33 sur 39, c'est un parcours plus que de champion. Ça va encore écraser la Ligue 1, je pense, cette année. Il n'y a pas de débat. Après, sur la production, oui, c'est inquiétant. Et oui, pour les objectifs qui sont ceux du PSG, même si, bon, cette année, il paraît qu'il n'y a pas d'objectifs. Donc, je ne sais pas trop où me positionner. Mais pour les objectifs...
La Ligue 1 reste quand même un objectif.
Oui, voilà. Mais donc, ça, ils l'atteindront, même sans être bons. Même, voilà, ils seront champions.
Parce que je me souviens, sur ce plateau, en début de saison, on disait beaucoup qu'il y avait match, que Monaco, Marseille même pouvaient prétendre au titre puisque Marseille jouait un match par semaine et que
Marseille, j'y ai jamais cru personnellement, mais et j'y croirais pas après le match d'hier. Mais oui, non, mais peut-être après le mercato, certains s'emballaient un peu, mais bah, pour faire le lien avec le match de l'OM, c'est une victoire importante qui réconcilie un peu l'équipe avec le Vélodrome. Mine de rien, sur cette saison. Hormis le PSG, Marseille a gagné les matchs dans son championnat, c'est-à-dire contre Lyon, contre Nice, contre Lens, contre Monaco. Ça fait 4 sur 4, donc même s'il y a des aléas sur chaque match, il y a des circonstances, mais 4 sur 4 dans ce championnat-là, c'est des matchs que l'OM ne gagnait pas forcément sur les saisons précédentes, notamment sous Tudor, sous Sampaoli, où c'était un petit peu le fameux match du dimanche soir que l'OM perdait tout le temps. Donc c'est des bonnes choses, même s'il y a des petits accidents contre les plus petits. Et pour moi, ça va se batailler là. Lyon, Monaco, Marseille, Lille pour les places 2, 3, 4, 5. Et c'est ce qui va clairement animer la fin de saison avec la course pour le maintien aussi. Mais pour moi, le Paris Saint-Germain va faire son championnat de son côté en essayant de progresser pour les
grosses
échéances
venir,
européennes.
Ouais. Merci Léo.
Ouais, moi je trouve que c'est aussi intéressant le fait qu'on ait 6 équipes en 6 points, il me semble, de Lens qui a 20 et à Marseille qui a 26 du coup. On est au tiers du championnat, ça donne un petit peu de piquant et de piment au week-end défilant. Concernant le PSG, bah, c'est malheureusement une prestation comme celle auquel ils nous ont habitués ces dernières semaines. Ouais, je rejoins Lucas, je comprends pas qu'un entraîneur, surtout un entraîneur qui est censé avoir la renommée de Luis Enrique et son passé, puisse dire qu'il comprend pas pourquoi ça fonctionne pas. Je pense que le premier responsable, c'est lui, même s'il n'est pas le seul, hein, parce que je pense qu'on parle pas assez de Nasser, on parle pas assez de Luis Campos, qui ont une part de responsabilité énorme et qui sont pour l'instant épargnés par la critique. Après, du reste, moi je trouve qu'on est face à un championnat, on vit un championnat qui est sympa, où rien n'est joué pour la course à la Ligue des Champions, même si on a 4-5 équipes qui se détachent avec Lyon, Monaco, Marseille, Lille. Lens et Nice pour moi sont un petit peu en dessous sur ce début de saison, donc on verra s'ils me donnent tort ou non. Mais on est vraiment sur quelque chose de plutôt intéressant jusqu'alors.
Oui, je tiens à rappeler que de Monaco au Paris Saint-Germain, il n'y a que 6 petits points, Non, 7 petits points qui les séparent. Enfin, 7 petits
sept
points.
Petits, ça pas mal. Ça, hein,
ouais, ça commence à faire pas mal.
Sur une
ouais.
saison où Paris va perdre deux matchs.
On va dire 8 avec le goal average.
En plus.
En plus, en plus bah, Marseille qui sont devant Monaco grâce au goal average d'ailleurs. Ouais. Et Lille, bah, Lille qui ont fait la mauvaise opération quand même de la semaine hein, en allant faire match nul à Montpellier. On peut le dire, hein, de partout avec une fin de match animé avec Tanguy
Koulibaly.
Koulibaly qui a, on ne sait pas ce qui s'est passé, il a tiré sur Genesio. Je ne sais pas si c'est fait exprès, si c'est un coup de je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, il a tiré sur Genesio qui a couru après. Et je pense que c'est là même où tous les joueurs, et là, la grosse embrouille a commencé à arriver aussi. Carton rouge mérité ou pas, selon vous?
Pour Koulibaly, ouais.
Pour Koulibaly. On a déjà vu des gestes.
Moi, je sais que c'est intentionnel.
On a déjà vu des gestes pires après.
On a déjà vu des gestes. En tout cas, non, des tirs de balles, que ce soit sur les supporters ou le staff. Pour moi, ça revient à la
même chose. Paris à la Coupe du Monde.
Ouais, c'est ça que j'allais dire.
Ouais, par exemple.
Ouais, Pays-Bas, Argentine.
Ou Lionel Messi aussi avec le Barça.
Avec le Barça, sur des supporters.
Là, il a clairement visé. Je pense que c'est ça. Il est à 5 mètres de lui devant. Il tire, ça tombe sur lui, enfin, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est pas un bon réflexe de tirer si fort quand t'as dépassé la ligne de touche, donc je pense que c'est mérité.
Moi, je pense que moi, ça sera peut-être une leçon des arbitres. En gros, faites attention si vous avez la mauvaise idée de faire ça en match. Quoi.
Et puis, il n'y a pas le côté geste d'énervement où il tire à 30 mètres. Là, c'est vraiment à 3 mètres à bout portant. Ouais. Donc,
De toute façon, un geste comme ça, à la base, ça vaut déjà un carton jaune. Donc
oui,
le
ça
fait
vaut
qu'en
un carton
plus,
jaune.
Ça ait touché Genesio et que ça ait l'air intentionnel, je pense que ça...
Est-ce que ça peut être déjà anti-jeu, comme si on se débarrasse du ballon, sauf que là, on tire sur quelqu'un. Bon. Après, rouge, peut-être qu'il y en a qui diront que c'est exagéré, mais bon, c'était peut-être une manière aux arbitres de montrer leur montrer que c'est eux qui commandent, quoi. Enfin, que, voilà.
Et il y a aussi Lyon qui se sont imposés 4-1 face aux Aiglons. Les Aiglons, franchement, ça va pas du tout. Hein. Et même dans la prestation. Bon, il y a eu beaucoup de faits de jeu, hein, notamment le président l'a rappelé. Et je pense aussi, pour ceux qui ont vu le match, il y a eu quelques faits de jeu très ambigus, on peut dire ça comme ça. Lucas, quel était ton ressenti, toi, sur ce match?
Déjà, je trouve que c'est Lyon qui fait quand même la bonne affaire de la journée. En plus, triplé de la Lacazette, ça les relance bien. Effectivement, il y a eu des faits de jeu favorables à Lyon. Des fois, ils leur sont défavorables. Mais là, quand même, ils arrivent à passer un cap. Ils arrivent à montrer qu'ils arrivent à suivre le wagon de tête. Donc, je trouve ça intéressant. Et à contrario, Nice, c'est la catastrophe. Ils se sont fait éclater en Coupe d'Europe cette semaine. Ils n'y arrivent pas. On a des révélations un petit peu bizarres, comme quoi Tanguy Ndombele jouerait blessé depuis un mois. Donc, en fait, c'est à se dire comment est-ce qu'il a été construit cet effectif et où est-ce qu'ils vont. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait de ligne directrice. Au début, quand Ineos est arrivé à Nice, on avait l'impression qu'ils allaient créer un projet assez ambitieux qui ressemblait sur le papier à ce que faisait un petit peu Red Bull. Et en fait, là, ils prennent des joueurs. Il y a quelques joueurs qui sont achetés cher, mais on sait pas trop ce qu'ils en font. On voit que, par exemple, Sofiane Diop, il arrive à revenir un petit peu, mais il y a encore un mois, il était la tête sous l'eau. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas de... Ouais, pareil. On a l'impression qu'il n'y a pas de cohérence, en fait, dans cette équipe. Et j'ai l'impression que Nice va alterner un peu le chaud et le froid toute la saison comme ça, et qu'ils sont un peu dans une espèce de faux rythme. Mais non, je vois rien que de... En tout cas, je vois pas de progression à Nice, et ça qui peut être assez inquiétant.
Amadou, qu'est-ce que t'en penses, toi, des Aiglons
Très déçu, parce que, comme il disait le collègue, il me semble qu'ils avaient un projet, là, avec l'Américain, je crois, c'est Radcliffe, là, mais ils ont plein de joueurs des bons talents, mais au final, je sais pas, ça... On dirait que la mayonnaise, elle prend pas, je sais pas. En plus, ils ont l'entraîneur de Lens.
Ouais.
Il est même je pense il a pas fait un malaise même il y a pas longtemps
enfin ouais, il avait une migraine il semble une grosse migraine
c'est ces joueurs qui doivent lui donner la migraine parce que là
il a fait aussi un petit jeu de mots où il disait bon je pense que si on aurait mis le deuxième but plus tôt j'aurais pas eu ce mal de crâne un peu dans le truc. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, des Aiglons, Léo, toi qui dois être content de la prestation des Lyonnais?
Au-delà d'être content, si on parle de Nice, faut aussi rappeler que hier ils avaient un effectif qui était décimé par les blessures. En match, ils perdent encore un joueur dont j'ai perdu le nom. Après, honnêtement, après leur défaite en Ligue Europa cette semaine,
Mohamed Ali Chou,
qui avait fait un bon début de match en plus, qui est passeur décisif sur le but de Diop.
Ouais.
Après leur déconvenue là en Ligue Europa, tu t'attendais peut-être à ce qu'ils essayent de peut-être fermer les portes, peut-être essayer de résister à Lyon, qui devait aussi faire tourner parce qu'il revenait de déplacement loin en Azerbaïdjan, donc c'est long le décalage horaire. Et au final, tu vois qu'à la troisième minute, la Lacazette marque directement. Tu sentais qu'à chaque incursion lyonnaise, il y avait un danger de but, alors que tu sentais de l'autre côté que les Niçois ils pouvaient facilement pénétrer dans la défense lyonnaise. Mais après, il n'y avait pas la frappe, il n'y avait pas le geste qui pouvait te mettre en danger, malheureusement pour eux. Après, on a parlé de l'arbitrage parce que ça a été un sujet hier, effectivement. J'étais de ceux qui pensaient qu'il y avait pénalty pour le OGC Nice sur la faute de Çalhanoğlu. Et puis, j'ai regardé les images à la fin du match et on voit qu'il y a une main de Guessan. Donc, je pense que c'est ça qui a été sifflé. Sinon, c'est une erreur de l'arbitre de ne pas leur avoir accordé. Mais je pense, on dit souvent qu'un but, ça peut changer le cours d'un match, même une réduction de l'écart. Ouais. Même s'il y avait eu le but du 3-2, dans la dynamique du match, je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose. Je pense que Lyon aurait juste élevé son niveau comme il l'a fait en fin de première mi-temps. Et que dans tous les cas, ils auraient assuré la victoire, parce que c'est une des forces du club, de l'équipe cette année. C'est de pouvoir monter à certains moments clés dans les matchs.
Merci Léo. Maxence ?
Pour revenir sur Lyon-Nice, bah, Lyon confirme que leur saison est véritablement lancée et que là, ils arrivent à jouer sur les deux tableaux entre l'Europe et le championnat. Après, oui, l'adversité n'était pas la meilleure ce week-end avec beaucoup d'absents. Moi, Nice... Le match qui m'a vraiment effrayé des deux, c'était celui de jeudi. Là, jeudi, leur match, Rosario, il donne les 4 buts. C'est une catastrophe de A à Z. 3 passes en partant du gardien, c'était pas possible. Enfin, c'était vraiment un enfer.
Il n'y avait aucune dynamique, aucune motivation, il n'y avait rien.
Hier, ils montrent quand même qu'ils arrivent à mettre un petit peu en danger, ils arrivent à entrer dans la surface adverse, etc. Même s'il manque, sur le dernier geste, il manque des choses, il manque de la confiance. Je pense que c'est une équipe, ça sera une équipe de coups cette saison, comme ils ont été gagnés à Monaco. Je ne sais plus si c'était à Nice ou à Monaco, mais ils ont battu Monaco cette saison. Ils ont quelques joueurs de qualité devant, notamment que ce soit Guessan, Boga, Diop. C'est des joueurs qui, dans un bon jour en Ligue 1, peuvent faire mal. Mais après, collectivement, ça manque de beaucoup de choses. Déjà, il y a beaucoup d'absents. Et puis, au-delà de ça, on ne sent pas de force collective qui émane de ce groupe-là. Et pour revenir à Lyon, c'est plutôt sain ce qui est en train de se passer avec Miko Tadze qui a flambé en Europe, Lacazette qui lui répond ce week-end. Donc c'est plutôt cool, une émulation positive comme ça. J'espère pour eux qu'ils perdront pas trop d'éléments au mercato d'hiver pour pouvoir faire une belle deuxième partie de saison et se mêler à la bagarre plus haut en Ligue 1. Et en Europa League d'ailleurs, parce qu'il y a clairement un coup à jouer, on en parlera peut-être plus tard, mais à mon sens, il y a un coup à jouer pour l'Olympique Lyonnais cette année en Europa League.
On espère en tout cas pour nos clubs français qu'il y aura un coup à jouer un peu partout. On va se faire une petite virgule avant de revenir avec la Ligue des Champions, hein, le FC Barcelone qui s'impose 3-0 assez logiquement face au Brestois. Hein. Encore un PSG bon dans le jeu, mais qui ne parvient toujours pas à marquer. Et on va dérouler ensuite avec le reste les petits résultats aussi de Liverpool face au Real Madrid, de Lille qui se sont imposés à Bologne et de Monaco bien évidemment avec des faits d'arbitrage aussi très contestables on peut dire. Et on va revenir dessus tout de suite, ne bougez pas. Monaco qui se font remonter par une belle équipe du Benfica et qui perd 3-2, mais notamment aussi avec pas mal de faits de jeu, hein, des faits de jeu qui ont fait polémique du côté Monaco et aussi du côté de l'Europe, parce qu'on a vu pas mal de petites vidéos circuler à propos de tous les faits d'arbitrage très 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 discutables. Qu'est-ce que tu en as pensé toi, Amadou ?
Ce match-là de Monaco, je ne les sentais pas trop pour ce match-là parce que Benfica, c'est vraiment une équipe super imprévisible. Enfin, j'ai pas trop suivi les faits de jeu qu'il y a eu, mais moi, je voyais Benfica gagner à Monaco. Et Benfica, quand on ne les attend pas, la dernière fois 4-0 contre l'Atlético Madrid. Monaco, bon, quand ils sont à domicile, c'est comme s'ils ne sont pas chez eux, quoi. Ils n'ont pas beaucoup de supporters. Je pense que c'était les supporters portugais qui étaient en pagaille. Donc. Mais après, ça s'est joué à rien parce que bon, ils ont mené. Après, il y a eu des erreurs défensives, errements défensifs derrière. Et, Di Maria et ses coéquipiers, ils ont su en profiter, quoi. Di Maria, Pavlidis.
Di Maria, ouais. D'ailleurs, qui est deuxième meilleur passeur de la Ligue des Champions
hein,
juste derrière Cristiano Ronaldo, qui vient de passer devant Messi.
Ouais.
Je pense qu'il va finir...
Il peut devenir le meilleur passeur de l'histoire.
Je pense qu'il va devenir le meilleur passeur de l'histoire, en réalité, Di Maria. Hein, de toute façon, en passant par tous ses clubs, en vue de tout ce qu'il a, il a réalisé dans sa carrière, ça serait largement mérité. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Maxence, de ce match de Monaco face... au Benfica.
Le Monaco-Benfica, j'ai trouvé que Monaco a été à la hauteur. C'est un vrai match de Coupe d'Europe qui peut tourner d'un côté ou de l'autre. Là, les circonstances ne sont pas favorables, mais ils arrivent. L'expulsion de Singo, elle, qui est très sévère d'ailleurs, elle a lieu à un partout. Ouais. Ils arrivent à mettre le deuxième, donc à 10 contre 11, pas facile du tout. Donc, ils ont vraiment répondu présent. Ce n'est pas comme les équipes françaises qu'on a connues qui passent à travers complet et qui prennent le match par-dessus la jambe ou qui ne sont pas... Là, ils sont dans le débat, ils sont dans le match. Après, c'est le football, c'est des faits de jeu. C'est, voilà. Mais je pense que le match, on le fait 10 fois, ils ne sont pas à la ramasse. Donc là, c'est mal tombé, ça s'est mal goupillé pour eux, but refusé. Voilà. Ils ont eu un peu tout sur ce match-là, tout qui s'est concentré. On espère qu'ils ont mangé leur pain noir sur cette Ligue des Champions à travers ce match-là et que ça va aller mieux. Mais on a vu notamment un Akliouche qui a été très intéressant. Mbolo qui a encore raté beaucoup d'occasions et qui est inefficace et qui est pour moi avec un 9 efficace, ce match-là, tu le plies et tu le gagnes. Ça fait 3-1 et c'est terminé. Benfica ne revient pas dans le match. Mais voilà, je ne tirerai pas d'enseignement plus que ça sur le match de Monaco. Il n'y a pas de sonnette d'alarme à tirer pour moi. Leur match était intéressant face à Benfica et... qui continue comme ça en Ligue des Champions, ils seront très durs à jouer, à mon avis, en 16e de finale pour l'équipe qui les tirera.
Ou en 8e, d'ailleurs.
Ouais, ou en 8e.
Leur calendrier, là.
Ça va commencer à être dur, les 8e.
Calendrier, il y a Inter, tout ça.
Ouais, mais je pense que c'est très dur.
Mais je pense qu'en 16e, pas beaucoup d'équipes se frotteront les mains d'avoir de jouer à Monaco en aller-retour.
Ouais. Arsenal, le prochain match.
Pourrait-on parler d'un vol, Lucas, sur ce match?
On n'en est pas loin, en tout cas. On n'est pas loin. On avait dit la semaine dernière ici que Lille, Monaco et Lyon devaient absolument gagner. Monaco, c'est le seul des trois clubs français qui n'a pas gagné. Et franchement, quand tu vois toutes les erreurs d'arbitrage, l'attitude de l'arbitre aussi vis-à-vis des Monégasques.
Ouais, on a vu des clins d'œil à Otamendi.
C'est ça, même Otamendi qui ne doit pas finir le match, contrairement à Singo, je suis d'accord avec Maxence. Qui doit... Après, Otamendi, c'est souvent qu'il ne doit pas. Il y a des joueurs comme ça qui arrivent avec l'Aurora à passer sous les radars. Pépé était un petit peu comme ça à l'époque au Real.
Le latéral de Carreras, il y a un latéral de Benfica qui ne doit jamais finir le match. Il fait deux agressions.
Totalement.
Je n'ai plus le nom exact, mais...
Il y a des joueurs qui ont des totems d'immunité, comme Casemiro. On ne doit pas leur mettre.
Et c'est ça. Et Otamendi, là, même, je crois, finale de la Coupe du Monde, il se semble bien qu'il fait des trucs sales aussi. Donc voilà, Otamendi, on a l'habitude avec lui, mais il a réussi à finir ce match, contrairement à Singo, qui, pour moi, a été expulsé de façon assez injuste. C'est triste pour les Monégasques. Je rejoins aussi Maxence sur l'inefficacité d'Embolo. C'est dommage qu'il n'y ait pas un neuf qui finisse par tuer les actions.
Balogun est de retour, d'ailleurs.
Balogun est de retour, mais il a du mal, Balogun, depuis qu'il est arrivé à Monaco. Et quand tu vois derrière qu'il y a Ben Seguir, Akliouche et Golovin qui revient très très bien, en plus de Minamino qui est toujours là pour en rajouter. Franchement, ils ont une ligne offensive qui a de la gueule, Monaco. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas le neuf qui puisse mettre toutes les actions.
Il y avait Ben Yedder et moi je pense réellement que c'est à cause de ces problèmes extra-sportifs qu'ils n'ont pas gardé parce que sur 5 saisons de suite, je pense, il mettait au minimum 20 buts.
Il n'a pas trouvé de club, donc c'est évident que ça a joué dans la décision de tous les clubs de ne pas le recruter. Et effectivement, Ben Yedder, même s'il est plus titulaire bis, qui sortait souvent à l'heure de jeu avec tous les entraîneurs successifs qui sont passés par Monaco ces dernières années, il aurait quand même fait du bien. Et c'est vrai qu'il y a un gros manque de talent au poste de 9. Enfin, pas de talent. Nikena est très très jeune. Et Balogun et Mbolo, on a l'impression qu'ils font des belles choses, mais que quand il faut la mettre au fond, des fois, ils ont un peu de mal. Donc voilà, c'est peut-être un manque d'alchimie collective. Mais c'est vrai qu'il leur manque ce petit truc à Monaco. Et je pense que c'est ce petit truc qui les a perdus à Benfica.
Et toi, Léo, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match?
Ouais, moi, je rejoins mes collègues sur le fait que Monaco, c'est une équipe qui manque d'efficacité devant. Même quand tu regardes le match hier contre l'OM, Balogun, on ne l'a pas vu. Balerdi, il l'a éteint, tout simplement. Alors, il a essayé de toucher 3-4 ballons en dos au but en début de match. Mais il a vite compris que ça allait être compliqué, que ce n'était pas sa soirée.
Il a quand même fait le décalage sur Zakaria qui...
mais est-ce qu'on n'en attend pas plus d'un joueur que tu recrutes? C'est combien, 40 millions 40, je crois qu'il l'avait acheté.
Moi, c'est après la saison qu'il avait faite aussi à Reims.
À la fois.
Il a bien de la chance d'être à Monaco.
Il avait bien commencé à Monaco, mais après, bon,
il se blesse souvent,
il s'est blessé,
aussi.
Ouais.
Moi, un joueur qu'on achète 40 millions, j'en attends plus, tu vois. Après, c'est un jeune joueur, faut pas oublier. Hein, pareil, c'est certainement un très bon attaquant. Alors, est-ce que il a des problèmes, je sais pas, pour l'instant, de mentaux devant les cages, ouais. On sait pas trop.
Les gars s'entraînent pas assez devant les cages. Pardon, excuse-moi.
Mais non, y a pas de problème. Mais Monaco, après, effectivement, c'est un effectif où moi je trouve qu'il est très bien construit. Il y a une vraie idée de jeu. T'as des top joueurs de Ligue 1 à pratiquement tous les postes. Les postes sont doublés. T'as un plan de jeu qui n'a pas évolué depuis plusieurs années, en tout cas un système de jeu avec les trois derrière, tes pistons, tes milieux, tes attaquants. T'as toujours le même type de joueur qui change. Les joueurs ne changent pas véritablement, en tout cas leur profil, malgré les changements d'entraîneur. T'as un entraîneur aussi qui a des idées, qui est référencé, qui réussit, on va le dire. Pour l'instant, Monaco est deuxième, troisième à égalité avec l'OM, donc c'est la preuve que c'est une bonne équipe. Qui plus est, alors qu'on en avait parlé comme potentiel prétendant au titre, c'est-à-dire que les gens ont quand même une bonne opinion du club. Maintenant, va falloir aller de l'avant, comme on dit, mais je pense effectivement que ceux qui les tireront en 16e, ce ne sera pas un cadeau.
Merci Léo. On va passer aussi à Lille. Hein. Lille qui se sont imposés à Bologne, 2-1. Une bonne prestation pour les Lillois, quand même une belle victoire ramenée à la maison aussi avec un bon 3 points. Qu'est-ce que tu en penses, Maxence ?
C'était un vrai test pour Lille et je les attendais vraiment à ce moment-là parce que, comme on le disait la semaine dernière, ils avaient joué que des matchs en Ligue des Champions où ils partaient pas favoris pour l'instant. Et ils avaient fait des super performances en partant dans ce rôle d'outsider. Atlético, Real, Juve, le match nul, etc. Pour pas les citer. Et là, c'était la première fois où ils pouvaient endosser, entre guillemets, le rôle de favori.
Ils ne l'étaient pas. Hein.
Ils ne l'étaient pas dans les cotes. Par rapport au classement de la Ligue des Champions, ils allaient à Bologne qui n'était pas bien du tout.
Bologne qui devait se relancer. Équipe,
Donc ils partaient avec des ambitions légitimes, on va dire. Et là, ils les ont assumées. C'est assez rare pour les équipes de Genesio en Europe. Mais là, ils ont réussi à le faire. Et donc c'est vraiment un vrai bon point parce que là, ils assurent leur place en 16e minimum. Et ils confirment, on va dire, leurs exploits précédents. Et ils n'ont pas fait ça pour rien. Donc très bien avec la révélation du petit Mouko qu'on avait vu un petit peu en Ligue 1, mais qu'on connaissait pas très très bien et qui met doublé, donc c'est
sur un
c'est
poste qu'il n'a jamais joué. Exactement, il n'a jamais marqué aussi, il n'a jamais marqué en professionnel.
Ils arrivent à sortir des jeunes sur les premiers matchs de Ligue des Champions là, entre Boadi, entre Muko, chacun leur tour, ils brillent sur des gros matchs. C'est top, ça fait plaisir à voir, c'est rafraîchissant, et puis on espère que leur route sera longue en Europe.
On espère. Et toi, Amadou?
Bah là, le match, il prouve encore que Genesio, c'est un vrai entraîneur de Ligue des Champions, capable de battre n'importe quel entraîneur. La plupart, tout le gratin et tout le monde est passé à la trappe. Ah bon, à part Klopp, je sais plus.
Je pense qu'il y a que Klopp,
mais sinon tous. Et là, après, on voit bien, Bologne, c'est plus le Bologne de la saison dernière aussi.
Oui,
ils ont perdu leur entraîneur et ils ont perdu aussi de quelques joueurs, donc bon. C'est trois bons points pris par Lille et on espère qu'on va les verra arriver à plein. Peut-être pas dans les 8 parce que ça va être un peu compliqué, mais après bon, de 16e. Après, je sais pas comment ça se passe après par rapport au barrage. Si ceux qui sont plus
ceux,
placés dans
ceux
le...
Ceux qui sont entre les 8,
ouais.
8 et les 24e
ouais,
place,
c'est 8e,
ça va être les 16e.
C'est, ouais, 16e, ouais.
Et du 1 au 8, ça va être le truc. Et du 24 au 36, ouais.
Donc
9e
contre
29e
contre 23e, 10e contre 22e, etc.
Ah, ok, d'accord, ouais. Le classement, ça va vraiment jouer.
Ça va vraiment jouer,
ouais. Par exemple, si on arrive 10e, on aura un bon tirage, quoi, en gros.
C'est ça. Après, Lille,
joue 13e, je sais pas, par exemple.
Et Lille joue Storm Graz au prochain tour, donc ils ont vraiment un coup à jouer pour s'installer très très haut. Et
après, pour l'instant, en 24, il y a le Real. Alors, donc, est-ce que c'est vraiment une bonne pioche de finir 9e? Je suis pas certain.
Je pense pas que, le Real vont finir 24e non plus.
Ouais, non, ça va remonter. Bon, après. Hein.
Non, avec
mais bon, on a City, le PSG dans cette zone-là aussi, c'est pas forcément des bons
après
coups.
C'est des équipes qui vont mal, hein.
Bien sûr,
du coup il y a des coups à jouer, hein.
Mais est-ce que vaut mieux jouer un PSG qui va mal en février-mars ou un Brest qui va bien? Je sais pas.
Et puis Lille va aussi aller à Liverpool, ce sera peut-être l'occasion pour Genesio de battre pas Klopp, mais bon,
de battre Liverpool, presque Klopp, ouais.
Exactement.
Là, ça va être un peu compliqué quand même.
Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Moi, je pense que déjà, belle victoire de Lille. Franchement, il fallait le faire. On a dit Muko, là, un joueur qui sort pas de nulle part, mais voilà, qui joue sa première saison à Lille, qui progresse, qui grappille du temps de jeu en Ligue 1 et qui a fait son acte de naissance vraiment sur la scène européenne en signant un doublé. Pour moi, ça valide vraiment le projet de Lille depuis 2 ans, d'avoir des joueurs qui. De récupérer des joueurs dans des championnats un peu plus mineurs, d'aller chercher des joueurs post-formés dans des. De post-former des joueurs qui sont dans des grands clubs et d'avoir des joueurs d'expérience. Je trouve que c'est une alchimie qui est plutôt bien pensée. Même si ça va être difficile l'an prochain, par exemple, avec le départ acté de Jonathan David, de suivre sur cette. De continuer sur cette voie. Mais en tout cas, jusque-là, je trouve que Lille, ils mènent vraiment très très bien leur barque avec des moyens qui ne sont pas extraordinaires. C'est pas le club qui a le plus gros budget de Ligue 1, mais ils arrivent vraiment à aller haut, à maximiser en fait leur potentiel. Et je trouve que cette victoire à Bologne, et je le disais la semaine prochaine, ils reçoivent le Sturm Graz qui s'est fait fait un peu de la figuration en Ligue des Champions jusqu'à présent. Donc ils ont vraiment
qui ont eu leur première victoire d'ailleurs.
Ouais, mais bon, on a vu contre Brest le niveau un peu de l'équipe. Et donc moi je pense que Lille devra gagner ce match aussi, et ça pourrait vraiment les mettre dans le bon wagon et les installer vraiment dans les équipes, peut-être pas top 8, mais vraiment dans le top 16 au moins. Et donc voilà, de recevoir au retour, d'avoir une équipe qui est supposément plus faible contre eux. Donc vraiment bravo aux Lillois, et voilà, c'est ça que j'attends des clubs français en Ligue des Champions, donc je suis assez satisfait.
Et toi, Léo, pour finir ?
Ouais, Lille, c'est une belle performance. Ça confirme effectivement que Bruno Genesio, dans les grandes rencontres, il est à son aise. Enfin, la plupart du temps, parce qu'il en a quand même perdu. Mais son bilan parle pour lui. Lille, c'est une équipe agréable depuis plusieurs saisons, qui a des bons joueurs à chaque ligne, du gardien jusqu'à l'attaquant. Donc, c'est ce qui fait une équipe, ce qui fait passer des paliers à une équipe. Je pense effectivement que là, le match contre Sturm Graz, ça va, je dirais pas une formalité par respect pour les Autrichiens, mais ça va être un match, c'est un match à leur portée. À voir comment, déjà, ils négocient leur fin de mini-championnat en Ligue des Champions, et surtout comment ils arrivent à le conjuguer avec la Ligue 1. On voit, là par exemple, ce week-end, la défaite, le match nul à Montpellier, c'est un très mauvais résultat, ouais. Étant donné la forme actuelle de Montpellier. Qui est vraiment au bord du gouffre. Je pense qu'une défaite, ça aurait été fait encore.
Ça aurait fait. Je pense que ça peut même plus. Je pense que ça peut plus rien leur faire, hein, au point où ils en sont.
Ils
un peu.
Foncent vers la Ligue 2.
Ouais, là, c'est. Ça devient.
Bon,
compliqué.
Après, ils sont qu'à 4 petits points des barragistes. Hein. C'est pas.
Ouais, mais c'est dans la dynamique.
Dans la dynamique, quoi, dans oui, ce qu'ils jouent, ouais. C'est ça.
Et non, Lille, c'est une bonne équipe. Alors, Genesio, on va voir s'il est capable de tenir toute la saison à ce rythme-là, parce que ça est aussi là où le bas a blessé pour lui. Ces dernières saisons, ou en tout cas dans ses précédentes expériences, et à voir quand le niveau va encore plus s'élever, dans le sens où je pense que le format actuel de la Ligue des Champions permet aux grosses équipes de se ménager, entre guillemets, plus qu'une phase de poule régulière. Mais quand les tours éliminatoires vont arriver, c'est là que les choses sérieuses vont vraiment commencer, quoi. Donc on va voir ça très rapidement.
Bah Léo, j'en profite, avec FC Barcelone qui sont imposés face au Brestois, 3-0. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus.
Non, même Eric Roy, il l'a dit en après-match, hein, la logique a été respectée, il y a une classe d'écart entre les deux équipes. Voilà, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle on s'attendait. C'est loin d'être prendre 3-0 à Barcelone quand t'es Brest, je pense que tu considères presque ça comme un bon résultat. Tant il y a quelques années, tu te disais...
Ouais, jouer la Ligue des Champions.
À partir de quand Brest va jouer le FC Barcelone ? Moi, quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, tu sais, les posts du club, on est bien arrivé à l'aéroport de Barcelone, tu te dis, mais c'est fou, genre. Et non, c'est un résultat qui remet rien en question pour Brest, qui a déjà fait son parcours en Ligue des Champions. Maintenant, c'est que du bonus. Je pense qu'ils ont de bonnes chances quand même maintenant d'accrocher les 16e, alors pourtant je ne les voyais pas réussir un tel exploit il y a quelques semaines. Bravo à eux, et qu'ils profitent, c'est tout, hein. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter.
Pas grand chose à rajouter, quelqu'un a quelque chose à rajouter sur
juste un petit truc, c'est quand même dommage que l'égalisation de Brest n'ait pas été validée. Oui. On voit quand même que Koubarsi, il avait déjà fait le coup au Real, ouais. Qui avance d'un mètre au moment, je crois, c'est... C'est Pereira, je crois, qui part au but. Et
oui,
c'est
Pereira qui marque.
C'est ça. Et en fait, qui fait en plus un super contrôle, qui fait une très bonne conduite de balle et qui met un très joli but. Et ce pas en avant de Koubarsi, qui, je crois qu'il y a 1-0 encore à ce moment-là.
Oui, il y a 1-0 vraiment, à ce moment-là. Voilà, c'est le jeu du hors-jeu que Hansi Flick a mis en place.
Exactement. Et là, on met très, très bien.
Extraordinaire. Voilà, Koubarsi.
Exactement. C'est là que je voulais en venir.
On n'en parle pas beaucoup, mais il a 17 ans.
Il a 17 ans et il a une maturité dans son jeu et la façon dont il le piège comme un vieux roublard. J'ai trouvé que c'était vraiment le très, très haut niveau. Là, on y était, et Brest, malheureusement, ils ont fait de leur mieux, mais ça et là, ils n'ont pas pu suivre.
Il est dans l'ombre de Lamine Yamal parce que c'est la même génération, etc. Il y a un joueur offensif qui brille, vrai. Mais Koubarsi, c'est la même chose de l'autre côté.
C'est extraordinaire.
C'est extraordinaire. Du génie. Hein.
Que ce soit sur ses passes,
son placement, l'intelligence, son cerveau.
Physiquement, il est dur, il est déjà prêt.
Il est mature, en fait.
C'est clair.
On va passer au sujet qui fâche, plus ou moins. Le Paris Saint-Germain, qui joue bien encore, mais. Qui joue bien un jeu assez stérile, on va dire un tiki-taka façon passe latérale. Franchement, que dire encore, réduit à 10 après avec un Ousmane Dembélé qui se prend un deuxième carton jaune. Que dire de ces matchs si ce n'est pas répéter ce qu'on a dit il y a 2-3 semaines. Lucas, vas-y, dis-nous ce que t'en as pensé.
Je trouve que là, on tourne un peu à la caricature. Et la caricature, d'ailleurs, on l'a pas dit tout à l'heure, mais a été rehaussée avec le match PSG Nantes de ce week-end où Paris a fait un record en Ligue 1 avec 84% de possession de balle sur le match sans réussir à gagner. Et ben en fait, c'est un peu ça le PSG de Luis Enrique. On a le ballon, on a même pas des actions, parce que contre Bayern, il y a quand même très très peu d'actions dangereuses. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait du ballon ? Comment on fait les déséquilibres ? C'est vraiment des questions qui vont se poser au Paris Saint-Germain. Là, on a de plus en plus de mal à voir où est-ce que Luis Enrique veut aller. Apparemment, tous les journaux disent que les joueurs, que ce soit Dembélé, Barcola ou les autres, commencent à se poser des questions. Donc moi, je partage les inquiétudes du vestiaire, si elles sont réelles. C'est difficile de voir où Luis Enrique veut aller. Heureusement que Gonçalo Ramos est revenu et qu'on voit déjà des petits prémices de ce qu'il pourrait apporter. Mais pour le match du Bayern, j'ai l'impression que Paris, certes dans les transitions, dans les sorties de balles, une fois que le Bayern les mettait sous pression, il y avait des choses qui étaient très très... très très positive. On voit notamment que Vitinha sur son jeu long, il y a des choses qu'on n'a pas beaucoup vu en début de saison qui m'ont fait plaisir. Par contre, la stérilité, on a l'impression que Paris pouvait rester 3 heures de jeu sans marquer en fait. Et même, ils n'ont jamais mis le feu, il n'y a pas eu des actions, on s'est dit, ah là, ils auraient pu faire quelque chose.
Barre, poteau, je ne sais pas, comme l'année dernière,
Exactement, on n'a pas eu ça. Et en fait, là, vraiment, pour le coup, il y a. En fait, j'ai jamais eu l'impression qu'il y avait autant de différence entre les très très grosses équipes et le PSG depuis un moment. Donc c'était. C'est assez inquiétant.
Voilà. Moi, ça me fait penser à la fameuse phrase de José Mourinho, hein, je pense qu'il avait joué avec, je ne me rappelle plus quel club, mais bon, vous savez que José Mourinho, la possession de balle n'est pas trop son truc, mais il avait gagné le match quand même, c'était un match difficile, et il disait à la fin du match, moi je m'en fiche de la possession, si vous voulez prendre le ballon à la fin du match, prenez-le, moi je prends les 3 points. C'est exactement ce qu'il a dit, et voilà, c'est du José Mourinho, hein, lui il est là pour les résultats, et là, il y a du jeu, mais si toi tu suis juste les résultats du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, C'est pas bon et c'est pas bon du tout. Amadou, toi, supporter du Paris Saint-Germain, comment tu perçois tout ça? Nasser El Khelaifi qui donne sa confiance totale à Luis Enrique, hein, qui le prolonge même durant cette année et qui dit que quoi qu'il arrive, il ne sera pas viré. Moi, je pense que la communication ici n'est pas très bonne, en sachant qu'il y a eu d'autres entraîneurs qui sont passés par la trappe pour moins que ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Moi, en fait, bon, c'était pas une mauvaise idée de prendre Luis Enrique, hein, dès le départ. J'avais dit, bon, j'avais juste peur qu'il essaie de remettre dans le bain Neymar, Verratti. Il s'est débarrassé de tout le monde. Franchement, sur ça, j'étais hyper content.
Verratti, t'es content qu'ils aient pu là?
Franchement,
Verratti en 6, c'est pas un joueur qui, avec son jeu long, avec sa capacité de casser un pressing, c'est pas un joueur qui ferait un bien fou au PSG aujourd'hui?
Je pense que c'est. Je pense pas nécessairement que c'est un joueur qui ferait du bien, comme on dit, parce que bon, il est là de temps en temps, quelques matchs, il va tourner en rond, faire ses petites passes, tout ça. Mais au final, il rate la plupart des matchs. Au final,
c'est
même,
vrai qu'il était trop blessé, surtout la dernière saison.
En fait, il était trop blessé, parce que c'est-à-dire que même à l'entraînement, au final, il peut même pas mettre à l'épreuve ses autres coéquipiers, avec son jeu de balle, tout ça, parce que finalement, il est pas là. Personnellement, j'étais content qu'on en termine un peu avec cette phase-là. Bon, l'histoire d'Antistar. Bon, maintenant, le truc, c'est que Enrique, on dirait qu'avec son ego surdimensionné, ça y est, il veut que ça soit lui et la star. Et malheureusement, en fait, il écrase trop les joueurs et pense pas que ça soit bon. Je pense que des fois, les joueurs, ils ont quand même... Ils ont quand même envie que voilà, on leur donne envie un peu de pas que ça soit amical, mais voilà, de il y a des joueurs qui sont voilà, c'est comme on dit, je sais pas, des sentimentaux, enfin voilà, faut leur donner envie
un peu,
mais
quoi,
je pense que lui c'est plus c'est limite entre guillemets de la dictature, quoi.
Mais t'as pas l'impression que Paris joue un peu à contre-emploi, c'est-à-dire que Paris a une équipe pour jouer la transition, pour jouer vite vers l'avant avec des latéraux supersoniques comme Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche, avec des joueurs qui font des super passes, t'as Joao Neves et Vitinha au milieu de terrain, et c'est des joueurs qu'on gâche un peu, qu'on bride,
tout le monde est bridé, voilà,
c'est ça.
Bah et même après c'est pareil, enfin, souvent j'entends que même Vitinha, pourquoi Vitinha il est devant la défense, lui avec la patte qu'il a, justement, lui c'est, pour moi c'est largement au-dessus de Verratti, avec la patte qu'il a, lui on devrait le mettre en meneur de jeu, on devrait être plus devant, parce qu'il peut il peut frapper de loin, il fait toujours des belles passes, mais on continue à vouloir le mettre derrière parce qu'on veut ressortir de derrière, faire des passes du gardien jusqu'à, on veut se faire des passes pour jusque dans la surface adverse.
On va juste revenir un peu sur le match du Bayern. Qu'est-ce que tu en as pensé réellement de ce match-là, du Bayern, de la prestation des Munichois et de la prestation des Parisiens sur ce match?
Bah alors ce match-là, en fait, c'est sûr que quand on est un peu supporter, bon, on regarde le match, on va dire ah, franchement Paris, bon, ils ont pas eu peur de la voilà du stade. On va dire qu'ils se sont donnés sur le terrain. Après de bien jouer, je dirais que c'est un grand mot. On va dire qu'ils se sont tués sur le terrain entre guillemets. Mais comme disait le collègue tout à l'heure, c'est vrai qu'ils pouvaient jouer encore deux heures. Franchement, c'était sûr qu'ils allaient pas marquer de but. En plus avec les joueurs qui sont bridés. Et franchement, par contre, j'ai beaucoup de doutes sur le Bayern, parce que bon, le Bayern, ils ont une équipe à tous les postes de très bons joueurs. Ils ont plus d'attaquants que nous, plus de finisseurs. Ils gagnent que 1-0 contre le PSG à 10 contre 11 pendant plus de 30 minutes. Pour moi, que c'est le Bayern aussi. Le Bayern, ils ont des questions à se poser aussi de leur côté.
Ils étaient peut-être aussi un peu dans la gérance. Hein. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Léo, de ce match?
Oui, moi je trouve que le Bayern a fait son match sans plus. Offensivement, c'était assez terne. Harry Kane n'a pas fait un bon match. Le Roi Sané continue d'enchaîner les prestations
médiocres.
Anodines.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est un fromage blanc, comme on dit. mais en fait, pour revenir à Paris et leurs prestations sur le match, alors je trouve qu'ils ont été loin d'être ridicules. En première mi-temps, ils ont même eu deux ou trois grosses occasions. Je repense notamment à la frappe de Neves là, qui flirte avec le poteau de Neuer. T'as Zaïre-Emery qui loupe le cadre à bout portant, alors que je pense que s'il l'avait cadré, c'était un but. Mais je pense qu'il y a
une... Il était un peu loin quand même, mais c'était une bonne frappe, en tout cas.
Je pense qu'il n'aurait jamais pensé... Moi, je t'ai coupé. Je pense qu'il n'aurait jamais pensé qu'il aurait pu être en position pour frapper. C'est-à-dire que la défense, elle était aux abois.
Mais c'est aussi le problème. Ouais. Un joueur pro qui joue dans un très grand club doit être prêt
à tout anticiper.
Mais on parle beaucoup de la tactique et tout, mais je pense qu'il y a un autre problème au Paris Saint-Germain, c'est tout simplement le niveau des joueurs. Quand ta tête d'affiche aujourd'hui, c'est Ousmane Dembélé, moi, je suis désolé, hein.
Même Barcola, moi je pense qu'on parle pas assez de Barcola, mais Barcola aussi qui passe vraiment de ses matchs, c'est très catastrophique.
Il devrait jouer que la Ligue 1 et il met Colomoigny en Ligue des Champions.
Ça doit être un adjoint dans une bonne équipe, Barcola.
C'est un joueur qu'on fait rentrer en fin de match pour apporter une petite fougue, on va laisser la parole à Léo.
Je me suis amusé à regarder l'effectif du PSG il y a 2 ans. Tu fais le comparatif, ça fait mal quand même.
Et ils avaient fait quoi en Ligue des Champions il y a 2 ans?
Pas beaucoup plus.
Voilà, c'est ça le truc aussi.
Ouais.
Le truc, c'est que l'ADN du PSG...
Il y a 2 ans, il me semble que c'était demi-finale, excuse-moi. Mais
quand même.
C'était l'an dernier.
2 ans, on s'est justement humilié par le Bayern 1-0-0-0 en étant d'une stérilité consternante.
Non, mais moi, je veux bien qu'on soit dans un projet anti-star où on met les jeunes, où on met les trucs en avant. Mais le truc, c'est que je pense déjà que l'ADN du PSG est d'être un club de stars. Ça fait 50 ans, ça, plus de 50 ans que le club existe. Tu regardes, chaque génération a eu ses stars. Rai, Rony, n'importe qui. Okocha. C'est dans l'ADN du club. Aujourd'hui, la vraie star, en tout cas celui qui pense l'être, c'est Luis Enrique, parce qu'on lui a donné les pleins pouvoirs. Moi, je suis désolé, dans un énorme club comme ça, quand tu donnes autant de pouvoir à ton coach... Et que tu le dis devant la presse et que tu le répètes, Je pense pas que ce soit une bonne chose. Faut toujours que ton coach soit sous pression. Sous pression, entre guillemets, pas devant la presse, tu le défends. Mais de là à dire toutes les semaines, il va rester au PSG, quels que soient les résultats, je suis pas sûr que ce soit le bon discours à employer. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Surtout avec ce qui a été dit il y a quelques semaines, voire quelques mois. Oui, le PSG aujourd'hui, son but, c'est pas de gagner la Ligue des Champions. Moi, je trouve ça fou qu'on puisse dire ça pour un club de la stature du PSG. Je crois qu'il a dit, si on arrive en quart, c'est déjà pas mal, ou l'objectif, c'est l'écart. Non, un club comme le PSG, son objectif, c'est de gagner la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions, le Trophée des Champions, la Coupe du Monde des Clubs, tout. Ça,
il y a un retournement de situation.
Tu verrais Florentino Pérez, tu verrais Laporta, tu verrais.
Ils sont comment Ligue des Champions, le PSG? Il ne faut pas se voir plus beau qu'on est ici.
Ouais, parce qu'il y a deux
trucs. Excusez-moi, pas tous en même temps, mais il faut être ambitieux aussi. Ouais. Léo, on va laisser Léo aller jusqu'au bout.
Un projet QSI, Ligue des Champions, ça fait combien de temps qu'ils sont arrivés?
11, 12,
depuis 2013.
Moi, je veux bien que ça mette du temps à se construire, tout ça. Mais le problème, c'est que voilà, le temps est passé et aujourd'hui, ça stagne en fait. C'est même pas que ça augmente petit à petit, c'est que ça stagne, voire ça régresse. Parce que tu vois aujourd'hui, alors je pense que le PSG va se qualifier en 16e de finale, et que ça... mais ils sont 25e de Ligue des Champions. Quoi.
Mais surtout que Luis Enrique, tu parles de coachs qui ont... Luis Enrique, pour moi, il n'a pas gagné sa légitimité. Tu penses à des coachs qui n'ont pas été mis sous pression, ça peut être Klopp, Ancelotti, qui est relativement tranquille malgré le début de saison poussif du Real Madrid. C'est des coachs qui ont gagné leur légitimité parce qu'ils ont gagné des titres, parce qu'ils ont fait des choses fortes avec leur effectif, ils ont reconstruit quelque chose. Pour le coup, Luis Enrique, bon, il fait une belle saison l'an dernier, mais pour moi, il n'a pas...
Une belle saison...
Ligue des Champions, en tout cas, comptablement, voilà.
Après, il a déjà gagné la Ligue des Champions, quoi.
Personnellement, par rapport à ça, j'ai ma petite théorie sur Luis Enrique. Pourquoi il ne veut pas de star au PSG? C'est parce qu'il a peur de ne pas pouvoir faire comme ce qu'il avait fait avec le Barça. Sauf qu'il ne pourra jamais faire ce qu'il a fait avec le Barça, parce que l'effectif de 2015 de Barcelone, c'était quelque chose
qu'aujourd'hui, aucune
équipe peut aligner.
Et je pense aussi que c'est un mec qui a un problème d'ego. Et on lui a répété tout le temps que c'est avec des champions 2015, c'est pas lui qui l'a gagné, c'est Neymar, Messi, Suarez. Et lui, à mon avis, il a envie de se prouver qu'il peut la gagner avec des mecs lambda, entre guillemets, et sans, que, en étant la star. Et c'est pas possible.
Mais on sait qu'il a un ego surdimensionné. Quand tu dis aux journalistes, je peux pas comprendre, tu peux pas comprendre ce que je raconte. Excuse-moi, mais tes joueurs ont pas l'air de comprendre beaucoup plus que nous, tu vois. Donc c'est un peu un problème à partir de là.
Maxence, toi, tu peux nous dire quelles ont été tes impressions là-dessus?
Ouais, déjà, j'aimerais qu'on arrête avec le côté « Oh, le PSG, ça joue très bien, mais c'est inefficace et tout ». C'est vrai que c'est inefficace, mais pour moi, ça a la possession en Ligue 1 stérile. En Ligue des Champions, je trouve pas que ce soit une équipe qui envoie non plus un jeu de fou. Tu vois, on n'est pas devant une équipe qui touche 4 fois le poteau, 3 fois la barre, comme tu disais, et qui envoie que du jeu. Là, j'ai vérifié pour être sûr que mon impression visuelle était confirmée par les stats, mais c'est 43% de possession au Bayern. Donc, c'est pas non plus Barça 2011 qui ont mis la main sur le match, etc. Après, ce qui est vraiment effrayant, et là, je vais rejoindre les collègues du coup, c'est... que c'était pas un grand Bayern. Et donc on voit que la marge avec les grosses équipes, elle est importante, parce que là le Bayern a le dessus et est globalement dans la maîtrise dans un match contre le PSG, alors qu'on a un tout petit Bayern, que Kane n'est pas bon, que Leroy Sané fait un match mais cataclysmique. Je pense que c'est le joueur en Europe que j'ai le plus de mal à regarder jouer au football. Il fait que des mauvais choix. C'est consternant.
Pourtant, à l'ancienne, à City, il était très fort.
Hein. Mais là, et maintenant, il a
blessure qu'il avait eue à l'ancienne. Il y a beaucoup de jeunes comme ça qu'on encense et qui ne progressent plus. Ils sont alors.
Lui, je pense que c'est dû aussi à ça.
Après les croisés, quand même.
Mais là, c'est pas des problèmes de vitesse, c'est des problèmes de choix. T'as l'impression que le mec a débranché le cerveau et que quand faut frapper, il fait la passe, quand faut donner, il va frapper. Enfin,
en dehors des choix, en fait, sa nonchalance sur le terrain. Ouais, en fait, ça se voit, un joueur qui a la dalle et un joueur qui n'a pas la dalle. Ouais. Et lui, on ressent pas ce joueur qui a la dalle, qui a envie de se donner sur le terrain. Non.
L'entrée d'Olise, c'est
parce
un peu
que
pareil,
c'est le copain un peu de compagnie, parce qu'ils ont joué ensemble aussi à City. On dirait que c'est le copain de compagnie et qu'il est là juste pour ça. Parce que, excusez-moi, mais Michael Olise, pour moi, il ne peut pas passer derrière lui.
Oui, après, l'entrée d'Olise n'est pas bonne non plus. Donc, en fait, c'est pour ça. C'est ça qui est un peu inquiétant, c'est que le PSG ne met pas vraiment en danger une équipe du Bayern qui n'a pas été bonne et qui l'a confirmé ce week-end avec le match nul un peu inespéré face à Dortmund, parce qu'ils sont menés quand même tout le match et ça peut aussi plus mal finir. Donc c'était pas une équipe monstrueuse, et donc c'est ça qui met encore plus en exergue, on va dire, les faiblesses du PSG, et on se dit que si on devait imaginer le PSG actuel aller jouer en field, on ne sait pas à quoi ça ressemblerait, mais sûrement pas à grand chose. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont jouer en field et qui ressortent grandies.
Je pense qu'on a pu le voir dernièrement. Hein.
Exactement.
D'ailleurs, on va... c'est bon, Maxence,
tu ouais, c'est bon.
On va d'ailleurs transiter.
Tu as fait ta transition
sur...
ou pas?
Exactement, oui. Tu as fait ma transition sur Liverpool. Liverpool, tout simplement, c'est les ogres, tout simplement. C'est l'ogre européen qu'on voit en ce moment, que ce soit dans le jeu, que ce soit en termes de résultats.
Intensité
de beaux jeux, hein, parce que franchement, il y en a peu en ce moment chez nos clubs. Mmh. Et franchement, c'est un régal total. Liverpool qui sont imposés face au Real Madrid. On pense notamment à des faits de jeu qui auraient pu relancer peut-être le match avec Kylian Mbappé qui loupe son penalty sur une très bonne rentrée de Lucas Vazquez, hein, même pas une deux minutes après, il provoque le penalty dans la surface. Et Kylian Mbappé qui loupe son penalty, qui ouvre son pied, mais... Ça manquait de confiance, ça manquait de peps un peu. Et Kylian Mbappé, tout simplement, qui a été critiqué très vigoureusement un peu partout sur les réseaux et par la presse espagnole et aussi la presse française. Lucas, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de tout ça et de notre pépite française?
Je trouve que c'est le match le plus inquiétant de Mbappé que j'ai vu. Parce qu'on a vu des matchs de Mbappé où il ne voulait pas, où il ne faisait pas les courses. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il a essayé, qu'il a tout tenté pour être dangereux et qu'il n'a pas réussi. Il s'est fait avoir. Et enfin, dès les premières minutes de jeu, il y a un moment où il lève un peu la tête, il essaie d'orienter, de faire une passe. Et tu as le latéral droit, le jeune, j'ai oublié son nom, qui lui
Bradley.
Prend la
balle. Voilà, Bradley. Pas oublié son nom.
Bradley qui lui,
peux pas
qui lui prend la balle.
Gros et, tacle, ouais.
Pas le moment du tacle, vraiment avant. Ça, vraiment, c'est, il lui prend la balle. C'est, Mbappé, j'ai l'impression qu'il joue dans un fauteuil des fois. Tu sais, qu'il estime que personne va aller lui prendre le ballon. Et en fait, il se retrouve un peu ridiculisé. Donc, vraiment, très, match très difficile de Mbappé. Et sinon, Liverpool, voilà, recette habituelle, hein, intensité, des efforts tous ensemble, ça va vite devant. On voit que le milieu de terrain, Ryan Gravenberch, on comprend pourquoi ils sont venus le récupérer au Bayern, hein, parce qu'ils s'ennuyaient là-bas. Et en première ligue, j'ai l'impression qu'il s'éclate. Ses qualités physiques, techniques,
surtout
et de passe.
Avec Arnaud Slot qui le met, qui le met vraiment juste devant la défense, qui le laisse organiser le jeu.
Et on voit McAllister, ça, voilà, ses bonnes prestations. À Brighton et en équipe d'Argentine, c'est pas sans lendemain, quoi. On est sur du très très solide. Donc moi, Liverpool, vraiment très très bonne impression. Voilà, et je pense que le Real est tombé sur plus fort que lui.
Je pense qu'il leur a manqué aussi cet homme fort. Et là, je pense qu'on peut le dire.
Le ballon d'or de
Liverpool. Oui, je pense qu'on peut le dire. L'homme fort du Real Madrid est incontestablement Vinicius.
Oui, Vinicius a manqué.
Qui a énormément manqué.
Moi, je pense que même avec Vinicius,
Liverpool
aurait pu gagner. Je le disais la semaine dernière, je pense que là, si on refait le match aller-retour au mois d'avril, ce sera une autre mayonnaise. Mais là, en novembre, vu les formes de chacun, les dynamiques et ce que est en train de démontrer Liverpool en ce moment, je ne suis pas du tout étonné par leur victoire. Et voilà.
Et toi, Léo, qu'est-ce que tu en as pensé?
Moi, même... Peut-être que c'est de l'enflammement, mais à l'instant T, je pense que Liverpool, c'est tout simplement la meilleure équipe d'Europe.
Oui.
Si demain, je devais prendre un exemple de club et de modèle de gestion, je prendrais Liverpool. C'est un club qui est structuré du haut de la pyramide jusqu'en bas. La transition Klopp-Slot s'est faite de manière très douce. Tu vois Klopp, au dernier match, qui demande à Anfield de chanter le nom de Slot. C'est pas dans tous les clubs que tu fais ça. T'as un effectif qui change assez peu, t'as de la qualité partout, tous les niveaux, défense, au goal, au milieu, devant. Pour moi, t'as le meilleur joueur du monde qui est Mohamed Salah. On n'en parle pas assez, je pense.
Le meilleur joueur du monde.
Enfin, le meilleur joueur actuellement,
2024, c'est Vinicius. Là, pour l'instant, c'est Salah.
Le mec, encore hier, hein, t'as vu la passe qu'il met sur le but contre Manchester City, c'est exceptionnel. Je pense que c'est un joueur dont on parle pas assez. On en discutait là, il y a 2-3 semaines. Ça fait 7 ans qu'il est à Liverpool, cette saison qui met, je sais pas,
20 buts par an. En fait.
Je sais
minimum.
Je crois qu'il n'y a qu'une seule de ces 7 ou 8 saisons de Premier League où il n'a pas marqué 18 buts minimum et 10 passes décisives sur la majorité d'entre elles. On parle d'un ailier, on parle pas d'un avant-centre.
Ouais.
Joueur exceptionnel qui est là dans tous les gros matchs. Qui a cette particularité, parce que tu as des grands joueurs qui statent aussi contre des plus petites équipes. Lui, il ne fait pas la différence. Ligue des champions, pas Ligue des champions, Première Ligue, pas Première Ligue. Puis voilà, tu as des joueurs, tu as un effectif qui est complet, tu as un effectif qui est régénéré, parce que chaque année, tu ajoutes un ou deux maximum nouveaux joueurs. allez, trois, on va dire. Ce qui est aussi dans ce qui est recommandé par le CIES, qui est l'Institut de l'Observation du Sport, qui est de régénérer ton effectif à peu près 30% par saison. Liverpool est dans ces temps-là. Ils sont sûrs de leur force et ils appuient dessus. Et puis ça marche, quoi. Quand tu vois qu'en plus, ils sont capables de te sortir des petits jeunes de l'académie. On parle de Connor Bradley, mais il y a d'autres joueurs comme Kate Gordon, Curtis Jones. Ouais, Liverpool, c'est vraiment une équipe pour moi sensationnelle. Et aujourd'hui, tu vas là-bas, tu es sûr de te faire passer à la machine, quoi.
Amadou, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce match ?
Ce match-là, c'est vrai que ça nous change le jeu de Liverpool. Bon, c'est une équipe que je supporte plus maintenant. Bon, après, c'est mes convictions personnelles. Mais en tout cas, on se régale de voir leur match. Intensité, comme disait le collègue, tout le monde travaille ensemble. Ils peuvent jouer en contre-attaque, en attaque placée. Enfin, comme ils font depuis 2015-2016, quoi. Et ils laissent rien à l'adversaire. Et là, bon, après, ils ont fait des bons recrutements. Bon, ils ont mis aussi quand même beaucoup d'argent, hein, parce que bon, Darwin Núñez 100 millions, Gakpo 50, McAllister, je sais plus.
J'ai 50,
peut-être, ouais. Au moins 50, il me semble. Hein, c'était un peu plus.
Depuis, ouais. 80 même.
Ils ont mis grâce à Sadio Mané, bien sûr, des dernières années. Ils ont pu, avec les résultats qu'ils ont eu, ils ont pu acheter beaucoup de joueurs. Parce qu'ils ont eu du mal à le remplacer quand même. Mais Luis Diaz. Bon, après, ils ont à tous les postes, ils sont bons, quoi. Et face au Real, bon. Là, comme on disait, avec le manque de Vinicius, bon, Mbappé qui doit jouer. Bon, en Angleterre, en plus, ils attendent tous au tournant, je pense, parce qu'ils se disent « Ah, c'est qui ce petit Français qui veut venir nous faire… » On va le voir, ils lui ont montré direct le chemin, quoi. Tu vas pas passer, quoi. Même le petit jeune Bradley, Van Dijk qui arrive, qui lui… Bon, par contre, il lui met un coup quand même, bon, dès le début de match. Après, bon, on attaque…
Dans la pelouse.
Voilà, beaucoup critiqué, il a raté un penalty. Bon, moi je dirais quand même c'est le gardien quand même qui a arrêté, parce que je trouve que ils ont un très bon gardien et qui paye pas de
mine. Ils ont un très bon gardien, parce que le penalty aussi, il me semble qu'il est pas très bien tiré.
Il a raté. Après, faut aller la chercher. Je trouve que Keller, parce que bon, on en sait beaucoup à Alisson. Moi, je suis pas un grand fan d'Alisson. Bon, je trouve même des fois Balopi.
Quand il est arrivé à Alisson, ses deux premières saisons, il est monstrueux.
Peut-être monstrueux à la Roma, à Liverpool, parce que je l'ai suivi à plein de matchs. Quand la balle, elle arrive derrière, le public, parce que balle au pied, il a fait beaucoup de. J'ai beaucoup de matchs où il y a une année, il les met dedans. Je me rappelle, ils avaient, je sais pas, au moins 7 points d'avance sur City. Et c'est lui qui donne les balles de but et ils perdent 4-1 à domicile à l'ancienne. Je trouve qu'il fait beaucoup de boulettes. Il est un peu. Je préfère même quand même Ederson que ce gardien. Mais enfin,
Merci, mais... Amadou. Maxence, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match du Real Madrid face à Liverpool ?
Ouais, Liverpool, on en a déjà parlé. Enfin, ce qui a été dit, je vais rien rajouter. Mais c'était le match auquel on pouvait s'attendre en fonction des formes des deux équipes. Liverpool a tout ce qui manque au Real, c'est-à-dire un cadre solide. C'est-à-dire un esprit collectif, c'est-à-dire voilà, des choses que peut-être la magie de la Ligue des Champions fera oublier dans quelques mois. Mais j'ai hâte de voir comment Ancelotti va se sortir de ça, parce que là, on voit quand même les manques qu'il y a face à une équipe comme Liverpool qui est prête, qui est en place. On voit un Camavinga était très bon, mais on voit un Bellingham qui donne tout, qui essaye, mais qui est au milieu de nulle part. T'as l'impression qu'il court dans tous les sens, essayer de créer du lien, mais qui n'existe pas. Et on parlait du fait que le match aurait pu être relancé par le pénalty de Mbappé, mais le match il peut aussi très très mal tourner. Il peut tourner plus cher que ça, parce que Asensio qui sauve sur sa ligne en tout début de match, le pénalty de Salah qui est raté aussi, les occasions, enfin ça peut finir à 3, 4, 5. Ouais. Et par rapport à Mbappé, tout le monde lui tombe dessus, mais je trouve que c'est aussi démesuré que sa défense l'était pendant des mois et des années aussi, parce que les mêmes personnes qui lui tombent dessus... S'il avait marqué, il y en a beaucoup qui auraient dit « Oh bah ça va, il a fait un bon match, limite, il a sauvé le Real, ça a été le seul à la hauteur. » Mbappé, on l'a vu, alors peut-être pas dans la conviction, c'est-à-dire que là, cette fois, il avait vraiment envie. Mais sinon, au PSG notamment, on l'a vu faire beaucoup de matchs comme ça, que ce soit en Ligue 1 ou en Europe, où il était moyen, où techniquement c'était faible, ouais. Dans les petits espaces, c'est toujours aussi, aussi effrayant, sur les contrôles, passes, sur les 1-2, à toi, à moi, c'est très très faible. Mais il était sauvé par un but, par un penalty, par une stat. Et donc du coup, on passait ça aux oubliettes. On disait, voilà, le PSG encore sauvé par Mbappé, alors que Mbappé, dans la soirée, il avait éclaté 5 situations de transition parce qu'il faisait un mauvais contrôle, il faisait pas la course. Et donc, c'était gommé par des stats, des penalties, un but, on va dire, facile pour son niveau. Donc voilà, là, s'acharner sur lui parce qu'il a raté... Il a raté un pénalty, certes il est mal tiré, ça arrive, mais pour moi sa prestation elle est dans la lignée de ce qu'il nous offre depuis maintenant presque un an et demi. Depuis
la Coupe du Monde. C'est inquiétant de dire ça.
Ouais, c'est inquiétant, mais.
Après lui,
merci. On va pas. Si Maxence a terminé, t'as terminé. Maxence. On va poursuivre avec. Bon, très rapidement, je vais prendre juste un ou deux. Personnes qui veulent s'exprimer sur Manchester City qui se sont fait égaliser face au Feyenoord. Léo, si tu... Je sais pas, ouais, 3-0, 3-3 en 15 minutes.
Manchester City, tu vois qu'ils sont dans une très mauvaise passe. Et tout à l'heure, on parlait de Vinicius Ballon d'Or qui n'aurait pas du tout volé son trophée, évidemment. Je pense que ces dernières semaines, elles permettent aussi de se rendre compte que Rodri, il est loin d'avoir volé le sien parce que depuis qu'il s'est blessé, Manchester City... dégringole, il ne gagne plus rien, tout simplement. Il n'y a plus de lien au milieu de terrain, il n'y a plus de milieu de terrain d'ailleurs, puisque hier tu vois que Mateusz Nunez il joue même ailier gauche par moment. Tu te demandes où il va.
On a aussi posé les questions sur les choix de Pep Guardiola dernièrement. Ils sont très critiqués aussi, ces choix de faire jouer Mateusz Nunez à gauche, Bernardo Silva à droite. Bon, c'est un peu le même profil dans le sens où il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas cet impact au niveau de l'attaque.
Alors qu'il a les joueurs pour, puisque hier, tu vois qu'il fait rentrer Savinho et Doku.
Doku.
Ce sont deux joueurs qui ont des lacunes devant le but, je pense. Mais quel que soit le défenseur qu'ils affrontent, tu sais que l'adversaire il va passer un mauvais quart d'heure. Et hier, d'ailleurs, ça s'est vu, Doku, des dribbles, des trucs. Il t'apporte de la vitesse, il t'apporte de la percussion, de la surprise, tout. Mais il manque ce truc, quoi. Alors que Haaland est censé faire ça, mais hier encore, on le voit pas. Il est dans sa surface, t'as l'impression qu'il est englué dans des sables mouvants. C'est un excellent joueur, un excellent finisseur, mais pour moi, on a déjà entendu parler de Haaland, meilleur joueur du monde. Je suis désolé, mais ce sera jamais le meilleur joueur du monde pour ça. Ce sera peut-être le meilleur neuf de la planète. Je pense qu'il battra... peut-être tous les records possibles et inimaginables, meilleur buteur de Ligue des Champions, meilleur buteur de Première Ligue, meilleur tout ce que vous voulez, mais ce ne sera jamais le meilleur joueur du monde par ses lacunes.
Merci Léo pour ce petit témoignage, on va dire, sur cette performance des Citizens. On va enchaîner les Citizens qui sont tout simplement fait marcher dessus par l'ogre européen, les Reds. On va y revenir avec la Première Ligue et tous les résultats juste après une petite pause. On arrive tout de suite, ne bougez surtout pas.
Hey, retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
De retour, on était encore en train de débattre en off sur les performances de certains joueurs. On a dit l'ogre européen, les Reds qui se sont imposés face à Manchester City 2-0 en rouleau compresseur dans le jeu. Manchester City qui n'ont pas vu le jour du tout et Pep Guardiola qui se fait plus que des griffures ces derniers temps. Ça va très mal du côté des Citizens, 6 défaites en 7 matchs, ça n'était pas arrivé depuis plus de 20 ans. C'est très 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 compliqué de ce côté-là. Maxence, qu'est-ce que t'en as pensé?
Le week-end a clairement confirmé ce qu'on pouvait présager la semaine dernière, mais pour moi la Première Ligue est pliée et je vois pas City revenir dans aucun monde et Arsenal encore moins. Pour moi Lucas, t'as pas l'air d'accord, mais pour
c'est
moi
c'est Lucas qui a l'air d'accord.
Non, il a pas l'air d'accord.
Oui, il me semblait qu'il avait l'air d'accord.
Mais pour moi il y a une marge et pour moi ça ça sera pas possible de revenir sur, vu les dynamiques actuelles, même si Arsenal va un peu mieux. Arsenal, c'est une équipe qui a du mal à gagner quand ils ont de l'avance, donc avec 9 points de retard face à une équipe qui sait ce que c'est ce genre d'enjeu et qui pour le coup elle a fait son petit baptême du feu il y a 3 ans maintenant en étant champion et en brisant la malédiction. Je pense qu'ils reviendront pas et que Liverpool a tapé un grand grand coup sur la première ligue ce week-end. Pour revenir à City, c'est très inquiétant et après, c'est aussi une fin de cycle logique. Hein. Ils n'allaient pas rouler sur l'Angleterre et sur l'Europe pendant des années comme ça. C'est déjà très très fort ce qu'ils ont fait. Il faut qu'on se replonge sur les 6-7 dernières années. 6
premières ligues en 7 ans.
6 premières ligues en 7 ans. Il faut prendre la mesure de ce qui a été fait et pas tout brûler. Enfin, brûler tout ce qu'on a aimé. Donc voilà, c'était très beau. Maintenant, c'est aussi normal que ça s'arrête. Ça n'a pas duré 20 ans cette histoire. Donc c'est normal que les mecs arrivent en bout de course, qu'un Gundogan, qu'un De Bruyne, ils peuvent plus donner ce qu'ils ont donné pendant des années, que Guardiola aussi peut-être qu'il arrive au bout de ses idées, de son imagination, et que voilà, un petit peu de nouveauté, ça fera pas de mal quand ça arrivera au niveau des joueurs, au niveau du coach. Et si ça doit prendre 1, 2, 3 ans de transition, comme ça a été le cas dans beaucoup d'autres clubs, hein, tous ceux qui ont eu des grandes périodes de victoire, derrière, il y a une petite période, 2, 3 ans où c'est moins bien. C'est normal, c'est le football. Tu parlais de Ferguson, United, on les a toujours pas revus à ce niveau-là depuis. Ouais, donc, des fois, c'est plus que 2-3 ans. Mais j'espère que c'est pour City que ce sera moins que ça. Mais voilà, à mon avis, on arrive à la fin de quelque chose. Et c'est aussi la logique du football.
Oui, Pep Guardiola qui a si bien rappelé ces 6 premières ligues. Moi, je pense qu'il se dit vaincu, en tout cas de cette Ligue des Champions, en vue de ce que Liverpool propose. Et c'est même pas juste de l'écart qu'il y a, hein. C'est en vue de ce qu'il propose réellement. Parce que tu te dis, avec tous les remplaçants qui sont sur le banc et les blessés aussi qui sont pas là, comme Diogo Jota, tu sais que quand ça joue, ça joue et vraiment tous les joueurs se donnent à fond. Vraiment, que ça soit Gakpo qui est remplaçant, Luis Diaz qui va être remplaçant le match d'après, Darwin Núñez qui va être remplaçant le match d'après. Il rentre Darwin Núñez, il fait des tacles défensifs à la Van Dijk et il célèbre avec le public. Du coup, c'est vraiment cette animosité que tu sens tout autour de Anfield et de Liverpool. Et franchement, je pense qu'ils sont imprenables. Là, ils ont vraiment, en une semaine, c'est simple, en une semaine, ils ont tapé les deux derniers champions en titre européen, que ça soit Manchester City et Liverpool, et Manchester City et le Real Madrid, et de façon assez aisée. Lucas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que Manchester City peuvent revenir?
Je pense que, pas forcément City, mais je pense que le championnat n'est jamais gagné en novembre ou en décembre, tout simplement. Il y a le Boxing Day qui va arriver, on ne sait jamais, une mauvaise performance par-ci, un truc par-là, il reste plus d'une vingtaine de matchs à jouer. Pour moi, c'est impossible de prédire qui sera champion en avril, mai prochain. Donc voilà, je mettrai... Après, si j'ai une pièce à mettre maintenant, je la mets évidemment sur Liverpool. Ils ont l'air de foncer vers le titre, mais j'ai pas envie de m'enflammer maintenant. Je le disais la semaine dernière, je trouve que Arsenal, depuis que Odegaard est de retour, ça joue vraiment super bien. Il y a eu la première mi-temps face à Aston Villa. C'était n'importe quoi. Ça finit à 5-2 à la mi-temps. Et on voit que, bon, ils ont un trou
d'air...
C'est West Ham ? Ouais, pardon, c'est les mêmes maillots, c'est pour ça. C'était West Ham. Et du coup, non, mais vraiment, ça... Ça progresse à Arsenal. Manchester a gagné assez facilement, mais ils sont loin. Mais Chelsea, mine de rien, fait pas trop de bruit. Mais Chelsea engrange des points.
Ils sont en égalité de points avec Arsenal.
Ouais, mais vous direz,
ils peuvent y croire aussi.
Et exactement. Après, je pense que vu le bazar qu'il y a eu à Chelsea depuis 2 ans, on a du mal à les prendre au sérieux. Mais j'ai l'impression que Maresca, il a trouvé la formule. Il a ses joueurs, il a trouvé ses titulaires. On voit très bien que, par exemple, Nkunku, il est malheureux parce qu'il joue pas. Mais en même temps, Nico Jackson, il fait ses matchs.
Ses performances aussi, ses stats.
Et en fait, tu vois qu'en fait, il a trouvé ses titulaires, il a trouvé son équipe, ça fonctionne bien. Et donc, je vois que Chelsea aussi avance. Ce serait vraiment un hold-up s'ils étaient champions. Mais voilà, ils avancent et je trouve que faut pas que Liverpool, justement, c'est le piège pour eux. Je pense que Liverpool a de grandes chances d'être champion, mais que s'ils se voient trop beaux, s'ils pensent déjà être champions, c'est là qu'ils vont faire des erreurs et que tout va être relancé, en fait.
Avec 11 points d'avance, 9, on va dire, enfin 11 points d'avance sur City, 9 sur Arsenal et Chelsea. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Léo ?
Y a un mois, je disais que je pensais que Liverpool allait remporter la première ligue. Bah, les résultats récents et l'écart de points forcément me confortent dans cette idée. Après, là où je suis d'accord avec Lucas, c'est que la première ligue, généralement, ça se joue à Noël. Parce que tu as 4-5 matchs dans une période de 3 ou 4 semaines. Ça va très vite. On regarde Arsenal l'année dernière qui avait 11 points, il me semble.
8.
8.
Avec deux matchs de retard.
Avec deux matchs de retard et qui, au final, ont été battus sur le fil. Liverpool, il ne faut pas oublier que c'est aussi une nouvelle méthode, même si, voilà, tout à l'heure, on parlait de la transition 12, de l'effectif de qualité. C'est quand même une nouvelle méthode, à voir si ça va tenir sur la durée et sur tous les tableaux ou non. Est-ce qu'ils vont privilégier peut-être un petit peu plus la Première Ligue, peut-être un petit peu plus la Ligue des Champions, même si je pense que pour eux, les deux compétitions sont les mêmes, sachant qu'il y a aussi la FA Cup et la League Cup. Bon, je pense qu'ils braderont un petit peu plus la League Cup, justement. Mais ouais, Arsenal revient bien depuis le retour de Odegaard. On voit son rôle aujourd'hui. Chelsea, Maresca, hier en après-match, a dit que son Chelsea n'était pas encore taillé pour concurrencer Liverpool, Manchester City ou Arsenal. Bon, c'est un discours de posture parce que voilà, il n'a pas trop le choix de dire ça, mais je suis plutôt d'accord avec lui. Aujourd'hui, je pense que Chelsea doit encore se trouver, même s'ils font de bons matchs. Si Caicedo retrouve
des couleurs,
couleurs. Jackson se révèle enfin comme un buteur qui loupe pas ses actions, parce que l'année dernière, je me souviens que c'était catastrophique.
Avec des bonnes stats quand même.
Pourtant.
Ouais. Oui, avec des bonnes stats.
Il a mis 14 buts, il me semble, ou un truc comme ça la saison dernière.
Il a mis un meilleur début de saison que Drogba.
Oui, on peut toujours revenir. Oui, mais maintenant, si tu vois en termes d'occasion et en termes de but, je pense qu'il est très très loin, Jackson. Moi, je regardais Jackson la saison dernière et franchement, je trouvais Jackson un gâchis total. Voilà. Hein. Je comprenais pas pourquoi il était à la pointe de cette équipe de Chelsea. Et vraiment, Nkunku, heureusement pour lui qu'Nkunku n'était pas là la saison dernière, parce que je pense qu'il aurait chippé cette place de titulaire. C'est vraiment parce qu'il n'y avait pas ce remplaçant.
Ils auraient pu être là. Mais je pense qu'ils auraient pu jouer ensemble. Parce que Nkunku, c'est pas un avant centre. Hein.
Oui, mais il est capable de marquer des buts, il l'a montré. Ouais. Mais il est capable de montrer des buts en attaque, il le montre encore, parce que c'est encore le meilleur buteur de Chelsea cette saison, même s'il joue que les compétitions européennes et la coupe à côté. Mais oui, il y a Chelsea, il y a Arsenal, mais pour moi, ce ne sont pas encore des prétendants assez sérieux pour concurrencer un Liverpool de la taille dont on a vu, hein, Liverpool qui ont battu aussi Arsenal cette saison. Hein. Ils battent Arsenal, ils battent Manchester City.
Match nul pour l'instant.
Ah oui, match nul à l'Etihad Stadium. Du coup, le retour, tu sais que ça rentre
fini. Ouais, voilà.
Ça paraît compliqué quand même.
Faut pas oublier, on parle d'Arsenal qui a perdu la Première Ligue en ayant 8 points d'avance.
Et deux matchs en retard,
C'était lié aussi au fait que City, sur les 20 derniers matchs, ils font genre 17 victoires, 3 nuls, un truc comme ça. Enfin, c'est City qui a imposé un rythme extraordinaire.
Oui, mais avec 17, comme tu as dit, 17 victoires, 3 matchs nuls, ça te laisse quand même 6 points en plus de marge que sur les 8 et en plus sur les 2 matchs en retard. Parce que si tu comptes les 8 points, les 2 matchs en retard et les 6 points.
Bien sûr. Mais je veux dire, pour que Liverpool perde le titre, certes, il faut que Liverpool laisse des points en route, mais il faut qu'en face, on ait une équipe qui soit capable de faire ce que City a fait en faisant un parcours parfait sur les 15-20 derniers matchs. Et moi, pour moi, que ce soit Arsenal ou que ce soit City, aucune de ces équipes n'aura la possibilité de faire un sans faute dans un championnat aussi exigeant que la Première Ligue, avec la Coupe d'Europe en parallèle. Ça me paraît surhumain comme performance.
Il n'y a que Chelsea qui font deux équipes, qui jouent avec deux équipes.
Parce que c'est la conférence.
Qui jouent en conférence avec deux équipes notamment et qui font assez bien tourner. Mais bien évidemment, s'ils joueraient la Ligue des Champions, je ne pense pas qu'ils auront pu se permettre de telles choses. Toi, Amadou, qu'est-ce que tu en as pensé très rapidement de ces matchs en Première Ligue entre Manchester City? City
méconnaissable. Après, bon, avec des nouveaux joueurs, Lewis, je pense que c'était un petit jeune qui sortait comme ça de temps en temps, mais bon, on voit que c'est pas au niveau. Matheus Núñez, bon, lui, je voyais Matheus Núñez, j'ai pas eu vraiment l'occasion de le voir jouer. Pour moi, c'était juste un remplaçant. Mais entre les joueurs, en plus à City, entre les joueurs qui sont blessés et les joueurs aussi que Guardiola a fait l'erreur aussi de se débarrasser, parce qu'il s'est débarrassé de beaucoup de joueurs entre-temps. Il y a beaucoup de joueurs quand même qui sont partis, Mahrez, Sterling, Gabriel Jesus, Cole Palmer, peut-être la plus grosse erreur qu'il ait faite, parce qu'on voit qu'il est en train de flamber à Chelsea. Bah, sur le match, non, Foden, il arrivait à rien. Foden qu'on dit souvent comme un des meilleurs joueurs du monde.
Joueur de Première Ligue la saison dernière.
L'année dernière, c'est étonnant. Bon, il a fait faire des choses.
Il est même plus titulaire aujourd'hui.
Il est titulaire encore, en vue des blessures, je pense aussi.
Avec Guardiola aussi, il avait tellement pléthore de joueurs que bon, Tous les jours, ils pouvaient changer d'équipe. Voilà, enfin, les joueurs, ils seront toujours au diapason, quoi. Mais là, là, ils n'y arrivent pas. Là, mais enfin, en revenant à ce qu'on allait dire tout à l'heure, là, c'est vrai qu'il y a 11 points d'avance, mais bon, City a quand même l'expérience de ça, parce que bon, il y a une année, Liverpool aussi, pareil, avait 7 points d'avance, et à la fin, ils se sont fait reprendre. Je crois que c'est une fois même, pour moi, c'était Alisson qui avait donné le titre à. qui avait donné le titre à City.
Mais merci Amadou. Ouais. Si je peux juste rajouter un truc sur Liverpool, moi ce que je trouve impressionnant au-delà de la versatilité des profils, de Mohamed Salah et tout ça, c'est le niveau de leur charnière centrale. Van Dijk Konaté, aujourd'hui, c'est exceptionnel. Van Dijk, le mec défend... On a dit ces dernières saisons que son niveau avait baissé et pourtant c'est toujours un des meilleurs défenseurs de la planète. Je trouve que c'est un capitaine, un défenseur exceptionnel. Et Konaté, j'espère que Didier Deschamps il regarde ses matchs à Liverpool et qu'il va enfin bien vouloir le titulariser à droite de la défense des Bleus et plus à gauche parce que c'est son poste naturel. Et que ce qu'il fait à Liverpool, c'est... exceptionnel. Le mec est imbougeable, il est rapide, puissant, il lit bien le jeu, il anticipe, il a tout du très 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 grand défenseur central, Konaté.
Il avait eu une fin de saison dernière difficile avec quelques petites erreurs de concentration, des petites voilà, mais là il a repris un niveau avec Arne Slot, c'est monstrueux. Et il disait dans une interview à l'équipe, je crois que c'est l'Euro, le fait de pas jouer à l'Euro qui l'a piqué un petit peu et il a repris encore plus fort cet été, mais là c'est bon, j'espère que sa petite blessure qui l'éloignera des terrains là encore jusqu'à fin 2024, ouais, ça lui mettra pas un coup d'arrêt. D'ailleurs il a été bien remplacé hier par Joe Gomez qui est toujours un gars sûr sans être extraordinaire, c'est le genre un peu à la Nacho au Real à l'époque.
Exactement.
Le mec pas titulaire, il réclame rien, mais quand on fait appel à lui, que ce soit sur le côté, que ce soit dans l'axe, il fait le taf contre les grosses équipes, contre les petites équipes, voilà, c'est le genre de joueur rêvé pour un coach, je pense. Et voilà, mais en tout cas ouais, je suis d'accord avec toi sur Van Dijk Konaté, c'est très 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 fort.
Très rapidement, je vais juste te dire les résultats de la Ligue Europa. Lyon qui se sont imposés 4-1 face à Karabag, pas grand chose à dire, hein, les Lyonnais qui ont assuré le coup, et Nice qui ont sombré et qui se sont inclinés lourdement 4-1 face aux Rangers, hein, avec une prestation très très médiocre, que ça soit dans l'intensité, dans le match, dans l'envie, un peu dans tout, et dans le score aussi, parce que même à la fin Genesio qui dit que la barre était trop haute. Franchement, je pense que c'est un peu, excusez-moi de l'expression, mais du foutage de gueule quand il dit ça, parce que c'est Rangers en face et tu peux pas dire que la barre était trop haute comme si tu avais joué contre le Real, le Barça ou Liverpool ou je ne sais quel autre cador européen. Mais voilà, c'était tout pour la Ligue Europa. On va enchaîner très rapidement avec la Liga, hein, avec le Real Madrid qui se relance, avec un but de Mbappé et de Bellingham. Le FC Barcelone qui s'incline face à Las Palmas et qui permettent au Real de Madrid qui peuvent repasser devant avec le match en retard face à Valence. On va se faire une petite virgule très rapide et on revient pour clôturer le tout. Si vous venez de nous rejoindre, il est 21h50 et nous allons clôturer bientôt cette émission. On revient sur la Liga très rapidement. Le Real Madrid qui se relance face à Retafe avec un but de Bellingham et de Kylian Mbappé. Bellingham d'ailleurs qui a tiré le pénalty. Mbappé n'était pas trop prêt, je pense qu'il ne voulait pas tirer le pénalty. Il avait même proposé à Rodrigo de le tirer. Mais c'est finalement Bellingham qui s'en est très bien chargé. Et le Real Madrid qui revient à un petit point du FC Barcelone qui se sont inclinés face à Las Palmas. Tout est relancé en Liga, hein. Je pense que là même avec le match en retard du Real Madrid face à Valence, c'est favorable pour que le Real Madrid prenne le leadership, on va dire, en Liga. Qu'est-ce que tu en penses, Léo ?
Hier, je pense que c'était samedi, le moins bon match du Barça cette saison. C'était stérile, il n'y avait pas d'idée. Ils ont été pris en contre. C'était vraiment pas terrible. Ils sont sur une série de 3 matchs sans victoire, il me semble. Alors, sur les 2 derniers matchs, il y a eu des circonstances défavorables. Je pense surtout au match à la Real Sociedad où il y a eu un but annulé alors qu'il aurait dû être validé par le VAR. Bon, bah voilà, ça fait partie du jeu. Bien que ça ne doive pas à la base. Mais hier, c'était vraiment pas bon. T'as des joueurs qui ont semblé en difficulté, fatigués aussi, moi j'ai trouvé. T'as assez peu de solutions parce que tu fais rentrer Lamine Yamal. T'as Dani Olmo qui n'était pas apte à 100%, qui, selon certains journalistes, ne pourra pas enchaîner 3 matchs dans une semaine. C'est un peu compliqué quand tu joues dans un club comme le Barça. Non, c'était un match sans, comme ça peut arriver parfois. D'ailleurs, Flick, il était très énervé pendant le match, on l'a vu. Voilà, c'est comme ça. Et puis le Real qui peut revenir. Hier, on parlait de Mbappé tout à l'heure. Son but, hier, je trouve que c'est le Mbappé qu'on a connu il y a quelques années. Un appel en profondeur, il a été puissant. Voilà, sur une action, bon, bah, peut-être que c'est le réveil pour lui, en tout cas, je l'espère. Ouais, c'est une bonne victoire. Voilà, il va falloir aller gagner. C'est à Valence ou au Bernabéu?
C'est à Valence, parce que ça a été annulé à cause des inondations.
Valence qui a eu un petit sursaut d'orgueil là récemment sur leur premier match de retour à Mestalla qui ont gagné. Mais bon,
ça reste, sont inclinés ce week-end.
Voilà, ça reste une équipe qui est en grande difficulté depuis maintenant beaucoup de saisons, qui flirte avec la zone de relégation, qui ont des problèmes énormes avec la direction, entre la direction et les supporters. Je pense que ça devrait pas être une énorme épine dans le pied du Real. D'aller jouer à Valence.
Merci Léo. Lucas,
Je pense pas que le championnat soit relancé. Peut-être que je vais vous étonner. Moi, j'ai toujours l'impression que le Barça a une marge. Effectivement, ils ont fait un mauvais match ce week-end contre Las Palmas. Ils se font vraiment transpercer deux fois très facilement sur les buts. C'était assez impressionnant à voir. Et ils ont été assez vraiment sans réaction. On n'a pas l'impression de voir le Barça qu'on voit depuis le début de saison. Mais moi, j'ai pas d'inquiétude, j'ai l'impression que c'est passager. Et le Real, dans le jeu, me fait pas la même impression que le Barça, au moins en championnat. Donc j'ai pas l'impression que ça puisse vraiment tourner durablement en faveur du Real. Après, on a l'Atlético qui reste encore en embuscade derrière, mais bon, on est nombreux ici à ne pas croire en l'Atlético. Et voilà, non, j'ai pas grand-chose à dire sur la journée de Liga, même s'il y a un petit chassé-croisé qui peut s'opérer, que le Real peut passer devant. J'ai l'impression qu'au final, le Barça va réussir à s'en sortir. Donc voilà, moi, je trouve que ça change pas fondamentalement les choses en Liga pour cette année.
Merci, Lucas. Amadou, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ?
Enfin, moi déjà, comme j'avais dit à un collègue, je voyais bien un faux pas de Barcelone. Enfin, je sais pas pourquoi. Bon, j'ai déjà vu jouer un peu à Las Palmas et je voyais le buteur Fabio Silva, pour la petite anecdote. Et j'avais même prévenu un collègue à moi, j'ai dit attention à ce match-là. Bon, après, ils ont perdu des points en route. Bon, peut-être que c'est relancé. Après, c'est vrai que comme souvent dans ce championnat, bon, souvent à la fin, ça se joue par rapport aux confrontations directes qu'il y a eu. Je veux dire, en gros, là, bon, comme on voit que la dernière fois, le Barça, ils ont pris le large, bon, à voir, en plus à l'extérieur, mais c'est quand même relancé. Je pense que ouais, le Barça, il a perdu quand même plusieurs points, et quand le Real du mois de février, mars, tout ça va se réveiller,
ça peut être.
Après, c'est à voir, hein, c'est toujours le suspense. Bon.
Merci, Amadou. Maxence ?
Je suis complètement d'accord sur le fait que le Barça a plus montré que le Real pour l'instant sur cette saison. Là, ils font leur moins bon match. Moi, ce qui m'inquiète un peu côté Barça, c'est la profondeur de l'effectif. On sent qu'ils sont dépendants de 2-3 joueurs, ce qui va être moins le cas du Real en Liga. C'est-à-dire que le Real en Liga, on l'a vu même sans Vinicius, ça a une marge face à Retafe, face à ce genre d'équipe. Il y a les joueurs pour faire la diff, même les mecs qui sortent du banc, que ce soit Arda Güler, que ce soit... Voilà, c'est des gars qui ont une marge en Liga. C'est moins le cas sur le Barça. Bon, on l'a vu, les 3 matchs où Yamal ne démarre pas, c'est les 3 matchs qui ne sont pas gagnés par le Barça. Je pense qu'il y a aussi le cas un peu pour Lewandowski qui n'a pas vraiment de doublure à part hein, Ferran Torres, mais qui est pour moi très limité pour ce niveau-là. Donc moi, c'est ce qui m'inquiète pour le Barça. Si tout le monde reste en pleine santé jusqu'au bout, mais sachant qu'avec tous les matchs qu'il va y avoir, Ligue des Champions, etc., j'y crois moyen. C'est le petit doute que j'ai, et sur le fait que le Real a un effectif quand même plus puissant, même avec toutes les blessures en Liga, ils ont une marge. Et petite mention quand même à l'Atlético, qui n'est qu'à 2 points du Barça, même si on s'intéresse pas vraiment à eux, et on va pas se mentir, personne les voit vainqueurs, mais on sait jamais, une année de une année où ils font l'année cachée comme ça avant de sortir au printemps avec le Real et le Barça qui seraient intéressés par une coupe européenne, pourquoi pas. À noter un super but de Griezmann d'ailleurs, qui a mis un but extraordinaire. Donc c'est pas celui forcément qui fera le prix Puskas, parce que c'est pas une frappe de 50 mètres, mais le contrôle, la reprise d'équilibre, la remise dans le sens du jeu, la lucidité pour le petit piqué, c'est très très beau. Et donc voilà, je mettrai encore petit avantage Barça, mais à voir. Et surtout, j'espère avoir les deux équipes à 100% le plus longtemps possible.
Merci Maxence. On va clôturer très rapidement. On va passer très rapidement du côté de l'Allemagne, hein, pour rappeler aussi quelques résultats. On s'étend pas trop sur le sujet, mais le Bayern de Munich qui sont premiers avec 30 points. Hein, le Bayern de Munich qui ont fait un match nul face à Dortmund 1-1 lors du Classiker. Très rapidement, est-ce qu'il y a une personne qui veut intervenir sur ce match-là, Lucas ?
Ouais, Dortmund montre encore une fois qu'il laisse passer des occasions vraiment. Ils avaient un boulevard pour gagner ce match. Quand Gittens ouvre le score, ils peuvent encore les enfoncer. Le Bayern ne montrait pas grand chose. Et en fait, à force de s'endormir, à force de les laisser revenir, ils prennent un but en fin de match. C'est un peu à l'image de ce qui se passe depuis plusieurs années entre les deux clubs. Et là, plus que jamais, on a l'impression que le Bayern a une marge énorme sur le reste de la Bundesliga. Leipzig, cette année, n'y est pas du tout. Stuttgart n'a pas l'air de vraiment confirmer sa belle saison l'an dernier. Le Bayer Leverkusen, bon, ça gagne des matchs, mais c'est beaucoup plus irrégulier que l'an dernier. Ça rentre un petit peu dans le rang, on va dire, même si ça reste de l'assez beau football en général. Là, vraiment, le fait que le Bayern s'en sorte même sur un match comme ça, c'est un peu l'impression du PSG en Ligue 1, en fait, que rien ne peut leur arriver. Et eux aussi foncent vers un titre qui leur semble promis.
Voilà. Attention à Francfort quand même.
Francfort qui sont deuxième avec 26 points avec Marmouche étiqueté, même on peut dire
qu'ils sont en feu là. On sait jamais.
Voilà. Et du coup, je tiens à rappeler, hein, Bayern Munich premier 30 points, Francfort deuxième avec 26 points, Bayer Leverkusen qui complète le podium avec 23 points, RB Leipzig qui lâche des points et qui vont mal en ce moment, que ça soit en Ligue
0, 0 points en Ligue des Champions.
Oui, c'est très très compliqué de ce côté-là, avec Loïs Openda aussi en disette avec 21 points. Dortmund 5e avec 20 points, Dortmund aussi qui ont fait un plutôt beau match contre le Bayern, mais ça ne suffira pas pour s'imposer. Et voilà du côté des Allemands. On va passer très rapidement du côté des Italiens aussi, hein, avec notamment une pensée pour Bove qui a fait un malaise hier face à l'Inter, le match qui a été reporté pour l'instant, et Bove qui va beaucoup mieux. En tout cas, on lui souhaite bon rétablissement pour les prochaines séances à venir. Et très rapidement, en Naples aussi, on a vu un championnat très très serré, hein, de la première à la sixième place, ça se tient en 6 points tout simplement. Voilà ce qui laisse qui nous laisse un peu en haleine, avec Naples premier, Naples qui assure premier avec 32 points, l'Atalanta avec 29 points, deuxième qui sont en train de jouer en ce moment même contre l'AS Roma, l'Inter avec un match en moins avec 28 points qui complète le podium. Fiorentina 4 points, 28 points, égalité avec la Lazio Rome, Fiorentina aussi qui doivent jouer le match en retard, et Juventus qui font la mauvaise opération de cette semaine avec 26 points, 6e qui se font rattraper dans le temps additionnel face à Lecce. Merci bien en tout cas à vous et merci à nos chers chroniqueurs, merci à vous d'être là, nos chers auditeurs et auditrices, merci à Jason à la technique, et on se dit à la semaine prochaine pour du football, et encore du football, et toujours du football. Bonne soirée à vous.
Ciao.
Ciao.